sur 101, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 4 juillet 2001 de 18 à 21h, en différé le jeudi 5 juillet dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Ce soir, nous allons recevoir...
Reconquérir.
Oui, ben, bien sûr, on est là pour ça. Nous allons recevoir les invités suivants. Deux points. J'ai décidé de faire un peu administratif maintenant, parce que... Monsieur l'abbé Cellier, prêtre éditeur.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'abbé Cellier. Monsieur Timmermann Claude.
Bonsoir.
Professeur, ancien élève de l'école normale supérieure, spécialiste des questions agricoles. Monsieur Henri Delesquin, qui a un micro qui ne marche pas.
Ouais. Qui est mal placé.
Non, non, toujours pas, mais ça fait rien. On sait revenir. Voilà, ça y est, ça marche.
Ça marche. Bonsoir.
Qui dirige le club de l'horloge et autre lieu découvert à Marabas. Comment ça s'appelle l'autre association?
L'association Voix des Français, Renaissance 95, voilà, que je préside depuis le mois de...
Mais c'est pas du tout désagréable.
Mars dernier.
Autre lieu découvert à Marabas, c'est tout. C'est une vieille expression française. Monsieur Debaune François, qui n'est pas là encore, et qui nous parlera de l'université d'été légitimiste, en deuxième partie. Madame Monique Beljanski, qui est chercheur au CNRS, et qui nous parlera de l'affaire Beljanski. Et madame Jocelyne Godard, qui est écrivain, et qui nous parlera d'une série de romans qu'elle vient de consacrer, qu'elle est en train de consacrer à l'Égypte ancienne, sous le titre générique Les Thébaines. Voilà. Et puis, je serai assisté pour cette émission de mon excellent camarade Henri de Fersan, auteur d'un livre épuisé. Épuisant aussi, d'ailleurs, parce qu'il fait à peu près 16 000 pages. Ça y est, vous avez tout vendu ?
Presque. J'ai fait le compte ce matin. Il reste...
Ce matin, vous avez fait le compte.
Il reste un petit peu plus de 100 exemplaires.
100 exemplaires.
La question, c'est sur combien ?
Sur 200.
Sur un tirage de 1000.
Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez vous abonner... si vous voulez vous abonnez au Libre Journal, d'abord, pour commencer. Tiens, après tout, je ne fais jamais de publicité pour le Libre Journal. Je vais en faire un petit peu. C'est un excellent journal auquel collaborent M. Timmermans, M. Fersan, non pas M. le Bécellier, mais M. François Brignot, qui est également collaborateur occasionnel de la Bécellier.
C'est un excellent journal. J'ai vu parfois des propos désagréables à mon endroit.
Bah oui, mais c'est pas moi qui en suis l'auteur. Vous arrangez avec l'auteur de ses propos. Moi, je publie. Moi, je n'assume pas. Pas tout, enfin, pas
désagréable et faux.
Ah, attendez qu'il soit là pour vous friter avec lui, comme on dit, dans les bandes.
Très volontiers.
D'accord, on le fait, ce débat.
Ah, mais quand vous voulez, non, mais il a une sur trentaine que j'avais refusé de le rencontrer, ce qui est totalement faux. Je n'ai jamais refusé de rencontrer quiconque. Et pas même ce personnage.
Sur le pré, vous rencontrez. On fera un débat armes, ça va chauffer. Hein. Alors, j'explique aux auditeurs quand même, il y a un fort antagonisme entre Henri de Lesquin et Philippe Plancard d'Assac. Ah,
c'est pas vraiment comme ça que ça se présente. Non, c'est lui qui m'a attaqué définitivement,
bah oui, donc il y a un fort antagonisme.
Sans que je prenne la peine de lui répondre. Et puis, finalement, j'étais obligé de lui répondre parce qu'il est intervenu dans le cadre de la campagne municipale de Versailles. Ce qu'il ne regardait pas.
Ce qu'il a le droit de tout citoyen.
Il n'est même pas versaillais. Il allait s'occuper de Romorantin.
Dieu merci, il n'est pas versaillais, j'espère.
En disant que j'étais franc-maçon, ce qui était faux.
C'est très, pour le moins exagéré, c'est ça.
Non, mais.
C'est très à la mode.
Bon, non, mais attendez, il va venir, vous allez faire ça.
Tissu d'ânerie.
Non, attendez, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Alors, vous pourrez vous engueuler tout à loisir quand il sera là. Mais là, pour l'instant, faites-moi la grâce de ne pas me mettre dans une situation délicate vis-à-vis d'un collaborateur.
Pour en finir, je n'étais pas là quand lui a dit sur cette antenne des propos qui étaient tout à fait incongrus.
Mais pas à mon micro. Il a fait dans mon journal.
À votre micro aussi.
Dans mon journal. Bon, alors, donc on en parlera avec lui quand il sera là. Si vous en parlerez. Moi, je partirai, j'irai boire un coup au bistrot du coin.
Et moi, j'arbitrerai.
Et je vous laisserai les clés. Bien, qu'est-ce que j'étais pour dire qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Vous m'avez fait perdre le fil de ce que
vous parlez. Vous parliez du Libre Journal.
Ah oui, je parle, voilà.
Pour les bonnes revues, Fidélitaire, le Libre Journal, etc.
Voilà.
La malfaisance de l'esquin, c'est là. C'est que j'étais lancé dans un grand éloge de mon propre journal. Il m'a cassé les pattes. Du coup, j'ai l'air de quoi maintenant? Je ne peux plus en parler. Enfin, je vais quand même le faire. Alors, voilà. On a pris une décision, grâce à l'immense générosité, je plaisante pas, là je suis très très sérieux d'un ami, on va faire une chose que j'aurais jamais pensé faire, je vais offrir une prime à l'abonnement, parce que on a eu un stock de livres absolument magnifiques, de très très beaux albums, d'une très grande valeur, qui nous a été généreusement concédé. Et je me suis dit que c'était un moyen. Les gens qui s'intéressaient pas au journal s'intéresseraient peut-être à ce livre qui est consacré aux Vendéens et qui est un album magnifique. Hein, je le dis, c'est vraiment, il est très beau. Et voilà, sa valeur vénale, si j'ose dire, représente presque la moitié du prix de l'abonnement du Libre Journal. Donc nous avons décidé, avec ma tendre épouse, que toute personne qui s'abonnerait ou qui abonnerait un ami, ou voir un ennemi d'ailleurs, parce qu'après tout, après toujours abonner un ennemi, c'est un bon moyen de le compromettre, recevrait en prime l'ouvrage en question. Voilà. J'avais pourtant dit, on fera jamais ça. Mais là, cadeau. Aucune contrepartie publicitaire, je peux pas hésiter. Donc voilà, si vous voulez recevoir un très 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 beau, très bel album sur les Vendéens, vous prenez un abonnement de 700 francs ou vous abonnez, si vous êtes déjà abonné, vous vous réabonnez pour 600 francs ou vous abonnez quelqu'un pour 600 francs en indiquant sur votre abonnement, je désire recevoir le livre que l'album magnifique que vous avez promis inconsidérément à la radio.
Entre parenthèses, dans la limite des disponibilités.
Ah bah oui, non mais je serais quand même étonné de voir arriver 15 000 abonnements dans l'après-midi.
Sait-on.
Si, alors bien sûr, dans ce cas-là, j'achète immédiatement une Rolls et je fous le camp à l'étranger. Non, plus exactement, je fous le camp à l'étranger et j'achète une Rolls.
Moi, ce qui m'inquiète dans votre proposition, c'est que vous expliquiez tout à l'heure très clairement que vous alliez éventuellement, par ces abonnements, pouvoir compromettre des ennemis. Je trouve infiniment défaitiste, au lieu de dire que c'était l'occasion, grâce à la puissance du Libre Journal, de les convertir.
Mais c'est ce ça que je voulais dire. Pour moi, convertir, c'est compromettre. Voyons.
Oui, évidemment.
Vous êtes compromis une fois que vous êtes converti. Vous devenez même porter la bannière. Demandez à la BCNI, elle va vous expliquer ce que c'est que les convertis qui portent les bannières. N'est-ce pas? En général, ils se servent des montants de la bannière pour casser la tête de ceux qui ne sont pas encore convertis. Bien, alors, donc l'adresse du Libre Journal, quand même, 4 place Franz Liszt, François Liszt, si vous préférez, puisqu'il se faisait appeler François, 75-010 Paris. 4 place Franz Liszt, 75-010 Paris. Les chèques sont à rédiger à l'ordre de SDB. Ce qui n'a absolument aucun sens, mais c'était uniquement pour dans les. Je me disais un jour comme ça, si j'ai vraiment besoin d'argent, je pourrais toujours piquer un chèque. Mais ça marche pas. La banque veut pas. Donc voilà. J'ai dit, vénérable maître. Ah, je me suis coupé. Bien, après ce départ dans la joie et la plaisanterie, je dois en venir à une affaire qui est tout à fait pénible. Et beaucoup d'auditeurs et de lecteurs du Libre Journal ont demandé ce qui s'était passé au village de Riaumont, parce que les radios, certaines radios et télévisions en ont parlé. Alors, je vais vous le dire tout de suite, et comme cette affaire mérite toute la prudence dont je suis capable, c'est-à-dire ça va être difficile pour moi, je vais lire les communiqués officiels sur cette affaire. Vous m'excuserez de lire, mais je sens que si je me laisse aller, je vais dire des choses désagréables pour certains, et je n'y tiens pas. Le village d'enfants de Riaumont est en deuil, alors que rien ne laissait pressentir. Un garçon pensionnaire du village, âgé de 14 ans, a mis fin à ses jours le 21 juin 2001. Ce garçon avait été placé volontairement par sa famille depuis le 7 septembre 2000. Rien, ni dans son comportement, ni dans son état d'esprit, n'aurait pu laisser présager un tel geste, d'autant qu'il avait peu de temps auparavant participé avec entrain au feu de camp de la veillée du groupe Scout Saint-Bernard. Ni les éducateurs du village d'enfants, ni ses camarades n'ont pu remarquer quoi que ce soit laissant deviner une telle issue. La fin de l'année scolaire approchait, le camp de vacances qui se préparait dans une atmosphère sereine et heureuse. Toutes et tous, religieux, éducateurs, scouts, guides, amis de Riaumont, ressentent avec douleur cette peine immense. Chacun s'associe à la souffrance de la famille de ce garçon et l'assure de ses prières et de sa sympathie. Ça, c'est le premier communiqué qui a été publié. Immédiatement après la publication de ce communiqué, il y a eu le déchaînement médiatique que vous imaginez et dont vous avez peut-être entendu certains glapissements. Et ça a donné lieu à un communiqué de l'association de défense du village d'enfants de Riaumont, intitulé « Ça suffit ». Le père prieur et les religieux de la Sainte-Croix de Riaumont. Alors je rappelle que le père prieur, c'est le père Jean-Paul Argouache, que je reçois très souvent à ce micro. Le père prieur et les religieux de la Sainte-Croix de Riaumont, leurs très nombreux amis, subissent à nouveau dans la presse des attaques d'une méchanceté aveugle. Et j'ajouterais quand même, et d'une bassesse ignoble. Il s'agit de se débarrasser d'une œuvre d'éducation et d'un village qui exprime encore la foi en Dieu. D'autre part, nous nous demandons si la colline de Riaumont ne serait pas l'objet de convoitises, étant donné sa situation historique et géographique en plein cœur du bassin minier et de l'Artois. Alors que le petit Romain n'était pas encore inhumé, les mensonges les plus odieux ont été commis par certains journaux et certaines chaînes de télévision. Peut-être mal informé, même sûrement mal informé, étant donné qu'ils sont toujours mal informés, pour agresser ceux qui aident les plus nécessiteux, et notamment les pères et les frères de la communauté qui ont donné leur vie pour aider les enfants. La maman de Romain, éplorée, vice-présidente de l'association de défense du village d'enfants de Riaumont. Toute la communauté attristée dénonce l'indignité de la récupération faite autour de la mort de ce malheureux enfant. Un garçon de 11 ans vient de se suicider cette semaine dans un établissement laïque à Lyon. Quelques lignes de la presse ont suffi pour relater ce drame. En 1997 en France, 771 suicides de jeunes entre 15 et 24 ans. La différence est que Riaumont, où, entre parenthèses, ce drame est le premier qui survient depuis la naissance du village d'enfants de Riaumont. La différence est que Riaumont est un établissement religieux qui, en outre, dérange certains responsables dans leurs projets. Soutenez-nous, nous avons besoin de votre soutien pour que cesse cette injustice et ces horribles mensonges, pour que nous puissions encore servir les plus démunis. Nous ne vivons que des dons qui nous sont envoyés et que de vos prières. Et c'est avec cela que nous continuerons à servir le Seigneur en servant les enfants. Signé l'Association de défense du village d'enfants de Riaumont. Sur quoi la maman de Romain, du petit garçon, a publié un texte qui me paraît capital, à la suite d'un article paru dans un journal local. Voilà cette lettre. En réponse à l'article paru dans la Voix du Nord du mercredi 27 juin, ainsi qu'aux propos tenus par la presse télévisée, et en tant que maire de Romain, sachant que si un seul doute nous venait à l'esprit quant à la responsabilité du village d'enfants de Riaumont sur ce drame, nous n'hésiterions pas un seul instant à nous constituer partie civile. Nous tenons à apporter quelques précisions contenant les propos tenus par la grand-mère et tante paternelle de Romain. Précisons que les problèmes de comportement de Romain sont essentiellement liés à une hyperactivité et à une séparation de ses pères et mères mal vécues. Pour notre part, il est hors de question d'entrer dans une polémique familiale par voie de presse. Nous tenons simplement à dénoncer certains propos abusifs. En ce qui concerne le village de Riomont, dit la maman de Romain, il semble déplorable que sans aucune fois avoir visité ce site, ne serait-ce que pour rendre visite à Romain et le voir évoluer dans cet environnement, on puisse décrire cet endroit ouvert à tous comme un lieu de contrainte. Là, je suis obligé de préciser que cette phrase vise la grand-mère paternelle de Romain, qui a instrumenté une campagne contre Riomont parce qu'elle n'acceptait pas que sa belle-fille ait inscrit son petit-fils dans cet établissement. Nous nous sommes souvent présentés à Riomont et sans nous annoncer, et nous n'avons jamais croisé de crâne tendu, puisque la Voix du Nord avait prétendu que c'était un village de crâne tendu et de rangers et de culottes de cuir. D'ailleurs, je vois vraiment pas au nom de quoi on interdit aux enfants de porter des culottes de cuir, des rangers et de se couper les cheveux courts. Ça, c'est vraiment... Évidemment, quand on est un peu pédo, on préfère avoir des enfants à cheveux longs. Les petits garçons à cheveux longs, c'est plus mignon. Mais chez nous, ça se porte pas forcément comme ça. Précisons également que cet établissement fonctionne sur deux principes. L'enseignement d'une part et l'activité scout d'autre part. Et que Romain aimait cette activité qu'il était tout fier lorsqu'il rentrait à la maison de nous montrer son uniforme scout. Après avoir, à 14 ans, été exclu de près d'une dizaine d'établissements scolaires, privés et publics, en France comme en Belgique, et aussi après avoir été refusé par d'autres établissements, Romain, à l'issue d'une période d'essai, a accepté d'entrer au village d'enfants de Riomont, où, au fil des mois, son comportement évoluait positivement, à un point tel que Romain était tout heureux de nous faire part de la progression favorable de ses résultats. En effet, vérifié par ses bulletins de notes, et il nourrissait de gros espoirs pour son avenir. En tout état de cause, jamais, au grand jamais, les retours de week-end sur Riomont n'ont été pénibles pour Romain. Nous étions même obligés de le tempérer, car il était prêt 3 heures à l'avance, de peur de rater son train. En conséquence, il est évident que seul cet établissement a su répondre aux besoins de Romain et aux nôtres, dans son intérêt, par l'écoute, la présence et la disponibilité des pères et des frères. Riomont a réussi à faire en sorte que Romain ait pu améliorer ses relations avec les autres. En conclusion, nous estimons que les propos tenus par les médias sont un miroir déformant de la réalité. Sa famille, c'est-à-dire sa mère, ses frères, sa grand-mère maternelle et son beau-père démentent ces accusations gratuites et irresponsables. Notre souhait à tous est que l'on respecte la mémoire de Romain et qu'il puisse enfin reposer en paix. Et l'association de défense du village d'enfants de Riomont ajoute « Cette seule correspondance suffit à écarter les affirmations inexactes et non vérifiées rapportées par l'article de la Voix du Nord du 27 juin. Dès à présent, l'association de défense du village d'enfants de Riomont et l'association Sainte-Croix de Riomont formulent toute réserve quant aux actions qu'elles entendent exercer à l'encontre de ceux qui sont à l'origine de ces propos inexacts et inadmissibles. » Et enfin, le père Argouache m'a demandé de vous lire une lettre, ce que je fais, il me l'a faxé il y a 10 minutes. Mes chers amis, nous sommes au cœur d'un drame effroyable. Un de nos garçons qui était depuis un an à Riomont s'est donné la mort, sans doute pour des raisons familiales. L'enquête le dira peut-être. Nous vous faisons parvenir quelques nouvelles. Nous souffrons particulièrement. C'est un tout petit peu de l'agonie du Jardin des Oliviers et de Gethsemane. Ce drame a été suivi de l'enquête des inspecteurs ordonnée par la préfecture d'Arras et d'un déchaînement médiatique, surtout sur France 2, France 3 et La Voix du Nord. Nous demandons les témoignages des anciens et nous avons besoin de votre soutien. Nous remercions les monastères, les séminaires pour leurs prières. De partout, des lettres de soutien nous parviennent. À la veille de partir en camp, nous devons rester mobilisés car Riomont est en danger. Prions pour Romain et sa famille. Prions pour que le village d'enfants traverse cette nouvelle tempête. Il faut trouver de nouveaux défenseurs et de nouveaux amis. Je compte sur tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, signé Père Jean-Paul Argouache. Voilà, donc si vous voulez témoigner votre amitié et votre soutien au Père Argouache, vous pouvez écrire à la Sainte-Croix de Riomont, village d'enfants de Riomont, boîte postale 28, 62 801 Liévin-Cedex. Vous pouvez également faxer au 03 21 43 44 33. Et si vous désirez faire des propositions comment dirais-je, matérielle précise. Pas seulement pour témoigner votre sympathie, parce que le standard serait encombré, mais si vous avez des choses précises à dire, vous pouvez téléphoner au 0321 28 32 09. Je vous demande à titre personnel, là, de rester en éveil pour une mobilisation rapide si besoin est. Le village est très gravement menacé. Toute la maçonnerie, toute la pourriture maçonnique et socialiste est en train de se mobiliser pour essayer de vampiriser ce drame, pour essayer d'en tirer profit. C'est un déferlement d'ordures et de canailleries comme on en a rarement vu. En plus, il y a derrière tout ça d'évidents intérêts immobiliers qui se profilent, parce que certains voudraient récupérer la colline de Riomont. Donc la préfecture envisage certainement d'entamer une procédure de fermeture du collège ou de l'institution. Le pire reste à craindre. Et il faut que nous soyons mobilisés, y compris physiquement, pour pouvoir nous rendre sur place et manifester notre soutien par notre présence, de la même manière que nos arrière-grands-pères ont manifesté leur soutien au moment de la spoliation des biens de l'Église, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, et du vol des biens de l'Église au début du siècle. C'est une chose de ce genre qui est en train de se préparer, et je demande à tous ceux qui ont les moyens de se déplacer, qui ont la volonté de se mobiliser, de se tenir prêts dans l'éventualité d'une nécessaire mobilisation physique sur le site du village de Riomont. Le père l'a dit, et je le répète, il ne faut pas croire que cette affaire se passera comme une lettre à la poste. Nous sommes déterminés à opposer une résistance absolument inébranlable aux tentatives d'utiliser un drame qui est un drame qui s'est produit des centaines de fois, la mort par suicide d'un enfant, à des fins crapuleuses, à des fins politiques et à des fins intéressées. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais faites-moi confiance, le moment venu, je dirai absolument tout ce qu'il est nécessaire de dire, et je mettrai même directement, s'il le faut, en cause des personnalités politiques qui se prêtent à ces malversations.
Vous parliez, Serge, tout à l'heure des inventaires et de l'opposition farouche que les catholiques ont fait à l'époque. Il faut savoir que dans le nord de la France, au début du siècle, enfin au début du XXe siècle et la fin du XIXe, un journal avait été spécialement créé par la préfecture et les amis du préfet, qui, je ne citerai pas son patronyme pour pas avoir d'ennui, mais c'est un patronyme ni flamand, ni auvergnat, ni kikouyou, avait créé un journal pour justement pousser à la haine la classe ouvrière contre la religion catholique, ce qui a amené en contre-coup la fameuse manifestation de Fourmies, dans lequel, sur ordre du sous-préfet, on a tiré dans la foule, l'armée a tiré dans la foule. Et donc ce journal qui avait été vérification, mais j'en suis certain, à peu près 99%, le journal qui avait été créé était, il me semble bien, La Voix du Nord.
Merci Henri de cette précision. Moi aussi j'ai ma petite encyclopédie à pattes. Ça s'appelle Henri Fersan. Il est pas mal ce garçon. On va écouter peut-être un peu de musique si Franck a la possibilité de nous en envoyer pour marquer une espèce de virgule sonore, comme on dit élégamment à la radio.
C'est du Tikukuyu de l'Ouest, je confirme.
C'est du gaélique, voilà. Bien, monsieur Timmermans, vous n'êtes pas gaélique, vous bien que normand.
Non, j'habite la Normandie, bien sûr, mais je ne suis pas gaélique du tout. Je suis, au départ, quoique toute ma famille maternelle, en fait, est du Nord-Cotentin, oui.
Vous êtes alsacien, Timmermans, c'est un bon alsacien.
Par la famille de mon père, je suis même de souche gantoise hollandaise, oui.
Ah, c'est pire, ça.
C'est pire.
Mais ça se soigne assez bien. Après 5-6 générations de Français, ça passe.
Ben, vous voyez, on en essaye. Mais
ouais, non, mais c'est bien, vous avez bien réussi. Mais...
J'arrive déjà à m'exprimer à peu près, si vous me recevez.
Vous avez même fait École normale supérieure.
Oui.
Section belge, non?
Non, section sciences et sans frites.
Mais on a plusieurs flamands ici, enfin, ou assimilés. L'Esquin, vous êtes flamand, vous?
Non, je suis breton. Il ne faut pas confondre l'Esquin et l'Esquin.
Ah.
L'Esquin, ça n'a rien à voir.
Ah, pardon.
L'Esquin, c'est l'aéroport de Lille. C'est une homonymie presque parfaite, puisque mon nom s'écrit Q-U-E-N.
Mais ça n'a pas de rapport connu.
J'espère que je ne vous ai pas blessé.
Je suis breton. Non, mais j'aime beaucoup les Flamands.
Je croyais avoir deux Flamands.
Je suis breton.
J'ai un breton et un normand.
C'est un moyen de tromper la
tête. Un tiers.
Bien, alors, Claude Timmermans, vous venez de temps en temps, vous êtes venu l'autre fois nous exposer des sujets qui ont d'ailleurs passionné les auditeurs, enfin des questions qui ont passionné les auditeurs sur relativement à l'agriculture, au scandale des SAFER, des mutualités agricoles, ça provoque beaucoup de questions. Et ce soir, vous venez nous parler d'un autre, enfin toujours dans le cadre des questions agricoles, d'un sujet qui est fort intéressant, qui est le sujet de la pollution.
Ben, j'aurais voulu, oui, effectivement, insister un petit peu sur ces problèmes. Le premier d'entre eux étant que nombre de ces pollutions agricoles sont, je dirais, volontaires, aussi choquant que ça puisse paraître. Et on prendra là-dessus deux exemples simples. La première d'une pollution volontaire par les industriels de l'agrochimie agricole. Et l'autre, une pollution volontaire par les paysans à travers le problème des élevages porcins, où tout le monde sait que la pollution essentielle consiste dans les problèmes d'épandement du lisier. Et il faut savoir, ce qui surprendra beaucoup d'auditeurs, je le pense, que le lisier n'est pas du tout obligatoire. Le lisier provient de la volonté de ne pas élever les animaux correctement sur des litières, mais de les laisser sur des tapis caoutchoutés ou sur des caillebotis. D'ailleurs, ils ne sont pas bien, ce qui fait hurler toutes les associations de protection animale, à commencer par l'OABA, l'Office d'assistance aux bêtes d'abattoir. Et sur ces tapis caoutchoutés ou sur ces caillebotis, eh bien, on chasse des déjections avec de l'eau sous pression. Et bien entendu, on obtient un espèce de liquide mélangé qu'il faut traiter après.
Mais pourquoi est-ce qu'on élève les animaux, ça paraît complètement idiot, sur des planchers? Pourquoi on ne les laisse pas sur la terre, ce qu'on a fait pendant des milliers d'années?
C'est une question pour certains de rentabilité. En les élevant comme ça, ça évite d'avoir à acheter de la paille et ça évite donc d'avoir des litières à manipuler. Ce qui fait qu'on empoisonne sciemment toutes les zones sur lesquelles on épand ce lisier, que l'on traite avec des produits pour qu'il puisse être, pour que l'azote puisse être transformé derrière, qui sont des produits riches en métaux lourds, notamment ces métaux lourds vont polluer le sol et les nappes phréatiques. Et en même temps, on épand sous forme liquide au bout d'un certain nombre de mois, parce qu'il faut du temps de maturation à ce lisier, des antibiotiques multiples qui sont donnés aux animaux, parce que Dieu sait que les porcs sont traités à coups d'antibiotiques. J'ai ici dans un coin les résultats d'exploitation d'une petite porcherie de 2580 porcs, où l'on constate que les frais d'achat de produits vétérinaires, traduisés antibiotiques essentiellement, correspondent à 10% du montant des frais d'achat de nourriture. Ça doit pouvoir laisser plus d'un rêveur.
Et c'est pas remboursé par la Sécu, en plus.
Et c'est pas remboursé par la Sécu. Et l'intérêt, c'est que ces antibiotiques, une fois qu'ils sont dans le sol, largement dilués dans l'eau, eh bien, ils ont, dans la maturation du lisier, et plus tard, dans la maturation des sols où ils sont épandus, ils créent des souches résistantes, qui sont celles, justement, qui ne sont pas tuées par ces antibiotiques, et qui, à ce moment-là, prolifèrent, parce qu'elles occupent toute la niche écologique disponible.
Mais pour bien comprendre, je voudrais revenir. Vous nous dites que, pour éviter d'avoir à mettre de la paille, à manipuler de la paille, nettoyer...
Bon, absolument.
On a fait des clés ou des tapis de caoutchouc.
Voilà.
Bon, tout ça, je comprends. Maintenant, je comprends aussi que la paille, il faut la manipuler, etc. Mais en quoi est-ce que ça changerait quoi que ce soit si c'était de la paille au lieu des...
Ça changerait quoi que ce soit,
de tapis de caoutchouc.
Car à l'arrivée, on obtiendrait un fumier de porc, de la même façon que vous aviez...
Mais il y aurait toujours le même nombre de...
Oui,
de
mais à partir... Oui, mais qui ne serait pas dilué dans de l'eau telle que c'est, et pour être utilisé, traité avec tous ces produits à base de métaux lourds et d'acide que l'on utilise. Et vous n'avez jamais de problème, pratiquement jamais de problème de contamination avec le fumier de bovin, vous auriez exactement les mêmes problèmes de facilité d'enfouissement dans les terres du fumier de porc.
Mais pourquoi est-on dans cette situation uniquement avec les porcs? Vous dites justement ça ne se produit pas avec les bovins, ça ne se produit pas avec les ovins.
Non.
Ça ne se produit pas, ça ne se produit pas avec les poulets, si, probablement, quand même.
Avec les poulets, les poulets sont élevés dans des cages, effectivement, de la même façon, mais la quantité est évidemment beaucoup plus faible.
Alors pourquoi c'est pas comme ça avec les les autres, avec
les bovins supporteraient assez difficilement d'être traités de cette façon, indéniablement. Et de toute façon, les paysans, tout de même, ont encore un minimum de respect pour certains animaux. Il n'y a pas de doute.
Mais le fumier de porc, paysans, moi, dans ce cas-là, je préférerais dire les agriculteurs, parce que c'est vraiment la différence, c'est la mauvaise exploitation.
Hein, oui, c'est plus l'esprit paysan du tout. Et d'ailleurs, un certain nombre, et c'est tout à leur honneur, effectivement, élèvent ces animaux sur de la paille, comme un certain nombre encore beaucoup plus réduit, mais ça existe, les élèvent carrément en plein air, où tout se passe très bien. Pour le plus grand désespoir du Crédit Agricole et des marchands divers et variés de matériel, qui bien entendu n'ont pas l'occasion de pouvoir fourguer leur...
Et de Vivendi qui ne peut pas vendre d'eau alors.
Et un certain nombre d'autres choses, absolument. Ça gêne tout le monde. À tel point qu'il y en a qui sont même menacés.
Il semblerait, si on vous écoute, que... des intérêts économiques puissants sont tout à fait prêts, en pleine conscience de cause, à nous empoisonner pour faire du fric.
Ah mais tout à fait. J'ai d'ailleurs le deuxième exemple dont je voulais vous parler, qui est tout à fait clair, qui est celui d'une multinationale grosse productrice de phytosanitaires qui est bien connue, qui est BASF. BASF, dans les années 1970, a mis au point une molécule active qui s'appelle le chloridazone, qui très rapidement l'a placé au premier rang des producteurs de désherbants pour la betterave. Au bout de quelques années, on s'est aperçu que ce chloridazone comportait, mélangé à la molécule active, un isomère dénommé isochloridazone, qui lui était extrêmement polluant. Mais l'omerta agricole, bien entendu, a joué, on a laissé faire. Et pendant plus d'une bonne dizaine d'années, on a déversé de l'hydrochloridazone dans le sol, qui n'est pas biodégradable et qui, en plus, se stocke au long de la chaîne animale. N'est-ce pas ? Puisque comme c'est, si vous voulez, c'est pas mortel, c'est ingéré, ça ne rentre pas dans le métabolisme, et puis ça se stocke au fur et à mesure.
Quand vous dites c'est pas mortel, c'est pas biodégradable, c'est ça que vous voulez
dire ? C'est pas biodégradable,
mais
si vous en mangez une fois, comme vous n'en mourrez pas, vous le stockez dans votre organisme. Si vous êtes, vous, animalcule quelconque, utilisé comme proie par un prédateur quelconque, dans le prédateur, il va stocker tout ce qu'il y a dans l'animacule. C'est tout le problème du stockage au nom de la chaîne alimentaire. C'est comme ça, par exemple, qu'à l'heure actuelle...
Moi, celui qui me mangera, il n'est pas né.
Il est peut-être pas né, mais je ne sais pas.
Je suis au bout de la chaîne alimentaire.
Ah, mais on ne sait jamais.
Et puis, il serait vraiment empoisonné.
Enfin, je ne sais pas. Après tout, il est peut-être né du côté de la plaine Saint-Denis, ou on ne sait pas. Hein.
Un requin, une puce, Dieu seul sait ce qu'il pourrait vous manger, ce qu'il pourrait trouver. Vous avez un cas bien connu à l'heure actuelle dans la baie de Granville, qui est célèbre pour les sèches, parce que les sèches ont l'habitude de venir frayer dans cette baie. Et à l'heure actuelle, on retrouve dans les cadavres de sèche de la baie de Granville des doses faramineuses d'atrazine, qui est un herbicide maïs. Mais à des doses vraiment colossales, qui ne tuent pas encore les sèches.
Qui les sèche.
Mais qui les sèche peut-être, mais qui sont peut-être susceptibles de ne pas avoir un effet merveilleux sur les gens qui en consomment.
Et les numides ont essayé de voir s'ils n'ont pas mangé.
Vous êtes dur, vous êtes extrêmement dur avec moi. Non, je termine mon histoire.
Attendez, oui, non, on va vous laisser me faire sans vous dire une bêtise.
Oui. Voilà. Au sujet justement des trusts qui nous empoisonnent, il y a une petite affaire que je voudrais faire connaître aux auditeurs. En 1964, un gros trust de la Mangeaille néerlandais avait lancé une margarine. Unilever. Qui a fait de la farine animale aussi, entre parenthèses.
Comme par hasard.
Avait fait en 1964 une margarine de qualité moindre. Et un quotidien français, L'Humanité, pour ne pas le citer, avait fait une grande campagne de presse dénonçant le trust de la Mangeaille qui nous empoisonne. Dans le mois qui a suivi, L'Humanité a obtenu de grandes pages de publicité de la firme Unilever, et bizarrement, on n'a plus entendu parler de trust de la Mangeaille dans L'Humanité.
Oui, mais alors là, c'est pas ça, si vous êtes... Non, vous êtes absolument de mauvaise foi, parce que la vérité, c'est que les communistes se sont aperçus de leur erreur, et que pour réparer, ils avaient dit que cette margarine n'était pas bonne, ils ont goûté, et ils se sont dit, mais c'est pas vrai, c'est un préjugé ridicule, et qui nous coûte cher, pour le coup. Donc ils ont téléphoné à M. Unilever, ils ont dit, vous savez, pour que ça nous coûte moins cher, vous pouvez passer de la publicité chez nous. Donc en fait, la publicité, c'était pour s'excuser d'avoir dit du mal de la...
Voilà, comme la CGT s'est excusée du mal qu'elle avait fait à M. Danone en passant une page de pub, enfin une grande campagne de pub pour Danone en février dans le journal de la CGT. Ceci est un petit clin d'œil à tous les auditeurs de la bonne ville de Ris-Rangis qui travaillent aux biscuiteries de Lu et qui vont se retrouver au chômage, persuadés que leur syndicat les défende.
Bon, ça n'a rien à voir avec l'affaire BASF, donc revenez sur cette histoire de molécules non biodégradables.
Donc, au bout d'une quinzaine d'années, il y a quand même un certain nombre de gens qui se sont inquiétés de ça, notamment un laboratoire tchèque qui, au début des années 90, a mis au point un procédé de séparation qui permettait de produire le chloridazone pur sans la partie toxique de l'isochloridazone. Et donc, ils ont déposé ce brevet et ils ont commencé, du moins croyaient-ils l'avoir déposé, et ils ont commencé à produire la molécule active pure qui était, disons, biodégradable et pratiquement pas polluante. Et que croyez-vous qu'il est arrivé ? Ben, ils se sont retrouvés avec un procès sur le dos de BASF qui a sorti de son chapeau un brevet de séparation des isomères qui datait de 1982, qu'ils avaient déposé en douce, sachant très bien que par la suite, les procédures prennent toujours du temps, surtout quand il s'agit d'affaires auprès de tribunaux de commerce et autres. Et BASF, en 1997, a obtenu de la FAO la validation du produit pur à son nom grâce à ce brevet de 82, mais sous une appellation de nouveau produit, puisqu'il était épuré par rapport à l'autre. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés reconduits pour la durée de validité globale d'un brevet en monopole, donc 30 ans si ma mémoire est bonne. C'était donc pendant 15 ans, ils ont pollué sciemment.
Pendant 15 ans, ils nous ont empoisonné d'une façon parfaitement consciente, en ayant la possibilité...
En ayant le produit
qui n'était pas empoisonné, oui, mais en refusant de le mettre sur le marché...
Pour pouvoir gagner en plus le maximum de temps, leur permettant d'user pratiquement toute la durée du premier brevet, sachant qu'ils avaient le moyen de récupérer un autre derrière avec ce produit dit nouveau, qui leur permettrait d'avoir une situation de monopole à nouveau pour 30 ans.
C'est le truc à se retrouver devant le tribunal vénal international de la haine, ça, non ?
Ben, je sais pas. J'avais écrit quelque part qui a parlé de Tartuffe, certainement pas les actionnaires du groupe.
Ouais.
Alors ça, c'est une histoire qui avait déjà été dénoncée par Que Choisir il y a quelques mois, mais bon, je pense qu'il était utile d'en reparler.
Sur lequel il faut taper, bien sûr.
C'est quand même quelque chose d'assez invraisemblable, et ça, c'est un exemple qu'il y a d'autres.
BASF, tu ne portais pas notre nom avant la guerre ? Avant guerre, c'était pas une autre entreprise, non ?
Honnêtement, très sincèrement, je ne sais pas.
Et peut-être. Monsieur BSM, vous ne connaissez pas,
Non, pas spécialement.
C'est pas IG Farben ?
C'est pas la IG Farben ?
IG Farben a été divisé, je crois, en trois. Effectivement, Bayer est une partie...
Pas Bayer, BASF, hein. C'est pas les mêmes.
BASF, c'est... Bon, je me trompe peut-être. Je confonds avec Bayer.
Avec Bayer, oui.
Bayer, c'est autre chose.
Qui est issu de la IG Farben.
Bayer fait des produits pharmaceutiques.
Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être issu de la IG Farben pour se comporter exactement comme
la IG
Farben. Parce que empoisonner consciemment des milliers de personnes pendant 15 ans, alors qu'on a le produit qui leur éviterait cet empoisonnement, ça porte un nom, ça.
Vous vous rendez compte du bénéfice ? Ils ont récupéré un monopole pour 30 ans qu'ils n'auraient pas eu, et en plus, ils ont fait toute l'économie de la séparation des isomères pendant 15 ans.
Alors, quelles autres bonnes nouvelles avez-vous à nous annoncer sur la pollution ? Parce que moi, j'étais prêt à devenir végétarien. Mais je m'aperçois que alors c'est même pas la peine.
Ah non, faut pas s'imaginer que ça se passe aussi bien que ça. Vous savez, le fond du problème aujourd'hui est le suivant. On a eu, en France, dans d'autres pays aussi, mais en France surtout, une organisation de cauchemar qui s'appelle l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Qu'a fait l'INRA pendant 30 ans ? Ils se sont complètement investis dans l'agriculture productiviste avec un seul mot d'ordre. Produire n'importe quoi, n'importe comment, pourvu que ce soit à haut rendement et que ça ne coûte pas cher. Or, quand vous faites des variétés génétiques et que vous les sélectionnez, il y a un phénomène qui est bien connu de tous. Quand vous insistez sur un caractère, bien souvent, c'est au détriment d'un autre. Ce qu'on appelle en génétique les corrélations négatives. Donc, on a tout sacrifié pour le côté production. Le goût, tout le monde le sait, il n'y a qu'à voir à quoi ressemble ce qu'on mange maintenant. Ça n'a plus de goût ni de tomate ni de quoi que ce soit. Et d'autre part, également, tout ce qui est résistance qu'avaient les variétés anciennes aux maladies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une grande imposture qui est à dénoncer, qui serait l'idée qu'avec les variétés dont on dispose à l'heure actuelle, on peut demain matin les cultiver à l'ancienne pour faire du bio. C'est alors, pas attendez, vrai, ça marchera jamais.
Absolument. Et c'est pire que ça, parce que j'ai publié dans le dernier numéro du Libre Journal un article d'Igor Verov qui explique l'affaire Cocopelli. C'est extraordinaire, ça. Il a été voté une loi qui interdit aux agriculteurs de garder des semences chez eux.
Oui.
Ils sont obligés d'acheter des semences trafiquées, des semences stériles en quelque sorte, non pas stériles mais non reproductibles,
ça, c'est
de faire leur récolte. Quand la récolte est finie, avant ils gardaient une partie du blé par exemple pour ensemencer.
Absolument.
Maintenant c'est interdit.
Maintenant c'est plus possible.
Mais mieux que ça, ils sont obligés on est obligé en France aujourd'hui de ne semer et de ne planter que des plantes qui sont inscrites au catalogue officiel.
Ça, il y a longtemps que ça existe, hein, ça. Mais autrefois, les catalogues étaient très élargis.
Alors,
il y avait,
là,
par exemple, 160 variétés de pommes de terre et autres. Il y avait quoi faire, hein, dans les variétés.
Et il y a des centaines et des centaines de légumes qui ont disparu et qui sont en fait interdits maintenant. Or, il y a une association qui s'appelle Cocopelli qui a décidé de se battre contre ça, de faire de la résistance, tout simplement, en disant, vous nous emmerdez avec vos lois, elles sont inhumaines, on ne les respectera pas. Et ils proposent donc à la vente des semences, qui sont des semences non inscrites au catalogue, mais qui sont des semences traditionnelles. Et alors, ils font par exemple, chose extraordinaire, des tomates qui ont du goût. On aura tout vu, des tomates qui ont le goût de tomate. Moi, j'ai 55 ans, j'ai pas de souvenir précis d'avoir mangé des tomates qui avaient goût de tomate depuis au moins 30 ans.
Et puis vous allez voir que, comme par hasard, ces tomates-là, il n'y a pas besoin de leur coller 50 kilos de pesticides divers et variés dessus pour qu'elles arrivent à maturité normalement. Voilà. Seulement, elles vont produire 3 fois moins que les autres. Alors, tout le problème est là, en 30 ans...
Alors, il y a non seulement une volonté, il y a une volonté formatage, en quelque sorte, de l'agriculture.
Tout à fait.
Mais à des fins qui sont des fins littéralement génocidaires. C'est-à-dire, il s'agit d'empoisonner les gens, il s'agit de les habituer à manger n'importe quelle saloperie.
Il s'agit de créer un système normalisé. Aujourd'hui, il y a un piège terrible qui est en train de se mettre en place, et je regrette de devoir dire que les seuls qui l'aient dénoncé avec force jusqu'ici, c'est les amis de José Bové. Je n'ai ni sympathie ni antipathie pour José Bové, mais il y a des agriculteurs qui ne le suivent pas nécessairement et qui pourraient écouter ce qu'il dit dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, on vous dit, faut pas mettre trop d'engrais, faut pas mettre trop de pesticides, faut pas, etc. Les gens disent bravo, ça y est, il y a des gens qui ont compris. Ils ont compris quoi? Ils ont rien compris du tout. Il faut voir ce que c'est que ce par quoi est créée cette agriculture raisonnée. Elle est diffusée à travers les chambres d'agriculture. C'est une opération médiatique de marketing extraordinaire par un forum qui s'appelle le FAR, le Forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement. Ce que j'ai, moi, rebaptisé la Fédération de l'agro-industrie restructurée pour sa rentabilisation euromondialiste. Parce que dans ce phare, vous retrouvez quoi? Pas du tout les paysans respectueux de l'environnement qui essayent de faire du bio, de reprendre des vieilles variétés, pas du tout. La présidente, c'est Christiane Lambert, l'ancienne présidente du CNJA, celle qui clamait à qui voulait
des jeunes agriculteurs.
Oui, qui clamait à qui voulait l'entendre que la seule solution c'était de produire plus et à moindre prix pour s'en tirer. Vous trouvez comme rapporteur Guy Payotin, qui est l'ancien directeur de l'INRA, dont on parlait tout à l'heure. Vous trouvez derrière le syndicat national des industries alimentaires, ceux qui ont entre autres importé les farines animales, un certain nombre de multinationales agrochimiques dont BASF que nous venons déjà d'évoquer. J'ajouterai Monsanto, la firme qui a inventé le fameux gène killer, celui qui permet de stériliser les grains pour éviter de pouvoir reprendre des semences. Donc vous allez racheter des semences chez ceux qui les fabriquent et qui bénéficient des brevets.
C'est quand même incroyable,
etc. Qu'on ait accepté etc. Ça, enfin, et vous allez arriver, au bout du compte, à avoir une agriculture qui va être complètement inféodée par une série de trusts multinationaux qui font la pluie et le beau temps partout, y compris à Bruxelles. J'en donne pour preuve qu'une phrase du document du Conseil d'orientation du 10 novembre 2000, qui est la suivante. L'agriculture raisonnée se caractérise par la mise en œuvre des moyens techniques dans une approche globale de l'exploitation. Ça veut tout dire. Une approche globale de l'exploitation, on globalise tout pour le profit de tous ces petits messieurs.
Alors j'ai appris, pas plus tard que ce matin, sur un site internet d'information un peu exclusif, que le Conseil pour la recherche génétique et biologique aux États-Unis venait de remettre un rapport sur eux disent opportunities, c'est pas les opportunités, c'est les capacités, disons, les possibilités de développement de certains aliments en matière militaire. Et donc certains laboratoires de génétique, d'organismes génétiquement modifiés sont en train de mettre au point des aliments génétiquement modifiés qui seront donnés, alors écoutez bien, ça paraît tellement incroyable, qui seront donnés aux militaires en opération. Car ces aliments génétiquement modifiés auront la capacité d'être des marqueurs qui seront repérables par satellite. Si bien que les gens qui auront mangé ça, autrement dit les soldats, les GI qui auront été nourris avec ces aliments, donneront un signal particulier aux satellites de surveillance de la planète, et on saura immédiatement où ils sont, dans quelle région ils se trouvent et dans quelle situation ils se trouvent. Tout ça pour éviter ce que les Américains appellent les friendly, je ne sais quoi, les tueries de gens, de soldats américains par des erreurs commises par des soldats américains. Oui. Ce qui est une de leurs grandes spécialités d'ailleurs. J'ai l'impression que dans les récentes guerres auxquelles ils ont participé, il y a eu plus de morts qui ont été tués par leurs propres troupes que par les troupes adversaires.
Il y a eu beaucoup de dégâts au Vietnam, c'est connu.
Voilà. Et pour éviter ça, donc ils vont nourrir leurs soldats avec des marqueurs génétiques qui vont être opérables par satellite. On arrive à quelque chose qui est littéralement diabolique. Enfin, c'est une conception démoniaque de...
Ce qui est surtout de très angoissant dans tout ça, je ne fais pas du tout de catastrophisme avec les OGM. Hein. C'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. À toutes les époques, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a fait de la sélection. La sélection, c'était quoi? C'était utiliser à l'état naturel des variétés génétiques.
Ah oui, gènes de souris sur des feuilles de tabac, là,
oui,
c'est
non. Mais ça, c'est quand même pas, heureusement, si simple que ça.
Il faut oublier que c'est des croisements de blé qui ont sauvé l'Inde de la famine en permettant des récoltes au Punjab, un blé spécial pour le Punjab qui a permis d'accroître considérablement la production de céréales de l'Inde et ainsi d'éviter les famines catastrophiques qu'on annonçait pour l'Inde à la fin du siècle.
Alors, ça, tout ça, je le veux bien. Maintenant, moi, il y a une chose que je voudrais quand même, auquel je voudrais que les gens réfléchissent. J'entends les responsables de la santé publique sérieux. Quand on s'amuse à faire une manipulation génétique, qu'est-ce qu'on fait? On modifie toujours des protéines. Hein, tout ce qui est génétique, c'est du codage de protéines, c'est-à-dire des associations carbone-azote, essentiellement. Vous savez que la chimie du vivant, c'est le mélange carbone-azote-hydrogène-oxygène. Et les protéines, c'est là où il y a les associations carbone-azote. Ce sont ces associations qu'on retrouve dans l'ADN, dans tout le matériel génétique et dans toute la formation des protéines en cascade qui sont tous les éléments de structure des organismes. Bon, donc ça c'est tout à fait clair. Maintenant, quand on modifie un certain nombre de protéines de structure au départ pour avoir l'évolution de la plante, voire de l'animal par la suite, comme on a modifié au départ un élément de structure, ça va se poursuivre en cascade sur toute la suite de l'organisme. Et vous allez donc avoir un certain nombre d'autres choses qui vont être modifiées, qui ne sont pas celles nécessairement qu'on a voulu au départ, et dont les effets ne vont pas nécessairement être observés tout de suite. Donc, je ne comprends pas que l'on mette sur le marché des produits qui n'aient pas été testés pendant des années, pour voir si finalement, eh bien, quelque part, parce qu'on a modifié un gène qui va permettre une résistance à un herbicide, on n'a pas créé quelque chose qui va, je vais dire n'importe quoi, mais c'est pas plus idiot qu'autre chose, provoquer le stockage dans l'organisme de l'urée d'une manière anormale. C'est tout à fait plausible. C'est à ce genre d'accident que je crois qu'il faut se préparer. Et ça arrivera. Okay.
Alors, je répète que Claude Timmermans collabore au Libre Journal et qu'il publie régulièrement des articles sur ces questions dans le Libre Journal. Donc, si ce sont des questions qui vous intéressent, que j'espère, Vous pouvez lire le Libre Journal pour poursuivre les passionnantes aventures de Claude Timmermans dans le monde des empoisonneurs de l'agriculture.
Je vous remercie en tout cas de me permettre d'écrire tout ça. Je ne suis pas le seul à l'écrire, je vous rassure tout de suite. Mais bon, il est certain que c'est une chance de pouvoir rencontrer des gens comme vous qui justement sont ouverts à ce genre de problème et qui essayent d'avertir.
C'est le cas de le dire.
Tout ouvert, oui.
C'est très bien, merci.
Bon, je m'arrêterai là.
Je vois que vous n'aimez pas mon genre d'humour, mais ça fait rien, vous vous y ferez. Il a l'air réellement indigné.
Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai du mal entre mes lunettes qui coincent mon casque, le nez dans le micro, avec mes papiers devant. C'est un petit peu compliqué cet après-midi. Vous voyez, on y arrive.
Vous reviendrez nous voir ?
Mais oui, je reviendrai vous voir, bien sûr.
Il y a des questions ? Alors allez-y, posez des questions.
La conspiration agricole va encore beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Le but est de rendre les gens malades pour assurer la prospérité des médecins et des hôpitaux, sans oublier celle des fabricants de produits pharmaceutiques.
Oui, je crois que c'est beaucoup
plus. Néanmoins, on vit de plus en plus vieux.
C'est pas vrai, c'est absolument faux. On va en parler. Tiens, le docteur Plantet, qui remercie tous les amis qui ont pensé à lui et qui est de nouveau hospitalisé. Mais enfin, ça va un petit peu mieux. Il y a pas de ça va dans le bon sens. Donc il m'a dit, dès que je sors, on va refaire une émission sur les différents mensonges les mensonges statistiques. Vous savez que Churchill disait, il y a trois sortes de mensonges. Il y a le mensonge. C'est Disraeli qui disait ça, pardon.
On l'a prêté à Gladstone et à Disraeli, voilà, donc bon. Churchill n'était pas le premier. Hein.
Bon, en tout cas, il disait, il y a trois sortes de mensonges, le mensonge, le foutu mensonge et la statistique. Et notamment parmi les statistiques mensongères, il y a celle selon laquelle on vivrait plus vieux aujourd'hui. Non, c'est absolument faux. La vérité, c'est que la moyenne d'âge est plus haute parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent au berceau.
Voilà. Le sire de Joinville est mort à 92 ans, et autrefois, c'est très connu, deux enfants sur trois mouraient avant l'âge de 5 ans.
Et le colonel de Blinière est mort à 90 ans d'une chute de cheval, quand même.
Hein? Il est certain que les antibiotiques, ça c'est vrai, ont quand même permis à beaucoup de gens d'éviter de mourir d'un certain nombre de maladies, ce qui fait que l'organisme peut vivre raisonnablement beaucoup plus longtemps. Cela étant, il faut quand même bien penser que l'âge auquel est arrivée l'espèce humaine à travers sa civilisation n'est pas un âge naturel.
Comment Adam vivait 960 ans, les patriarches vivaient 1000 ans et tout. Ne rigolez pas, l'esclave, parce que moi je suis fondamentaliste. Alors quand je cite la Bible,
je suis catholique non fondamentaliste.
Ben, donc vous n'êtes pas catholique.
Les papes de toute origine ne sont pas catholiques d'après.
Non, pas ceux qui ne sont pas fondamentalistes. Moi je lis la Bible et je vois que les patriarches ont vécu 900 ans, 1000 ans, etc. Et quand vous faites ce que j'ai fait, la généalogie, vous voyez que ça...
Ce sont les protestants qui sont fondamentalistes. Enfin, en tout cas, certains d'entre eux.
Mais les catholiques aussi, la preuve. Moi, je suis catholique fondamentaliste. Ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Par exemple, le lièvre est un ruminant. Voilà. C'est la vérité.
Je continue les messages militaires. Le trust dont vous avez parlé tout à l'heure, IG Farben, a été démantelé en 1945 par les autorités alliées en trois sous-entités, c'est-à-dire OS...
Uxt. Bayer et BASF.
Uxt et Bayer. C'était pas loin de la réalité.
Uxt et Bayer,
c'était une fausse erreur.
Il y a des gens qui sont spécialistes dans l'empoisonnement quand même.
Et un autre auditeur dit BASF est connu pour la fabrication de bandes magnétiques. Est-ce la même maison dont vous parlez ?
Très probablement, oui, non pas. Vous savez, c'est comme Rhône-Poulin, comme un certain nombre d'autres trusts. Ils ont des départements phytosanitaires, des départements pharmacologiques.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils nourrissent les animaux avec des bandes magnétiques.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils nourrissent les animaux avec des bandes magnétiques.
Pas
absolument.
Encore.
Ça viendra peut-être. Vous savez, après leur avoir donné de la farine de cadavres douteuses, on peut s'attendre à tout.
Vivendi est-il dirigé par un catholique fervent ?
Alors ça, je n'en ai personnellement aucune idée.
La nouvelle loi sur l'eau...
Le numéro 2, non.
Avec la nouvelle loi sur l'eau, ils ont à nouveau assassiné les petits puisqu'ils vont privilégier les coopératives et grosses exploitations jugées plus raisonnables.
Mais ça, ce n'est pas du tout un problème nouveau. Un dénommé Jacques Delors, quand il est arrivé à Bruxelles, a dit « Les agriculteurs, on les aura ». Son but, c'est de ramener la population des agriculteurs en France à 2%. On en est encore à 3 et quelques, donc nous allons continuer. à écraser les petits pour essayer de privilégier quelques gros. Et il faut savoir que pour tout ce qui est de ces fameuses primes agricoles, après lesquelles un certain nombre de gens commencent à s'inquiéter en trouvant que ça commence à bien faire, il faut savoir que c'est bloqué au niveau des chambres d'agriculture et que, comme par hasard, ce n'est reversé qu'à des gens qui ont des chiffres d'affaires d'un certain niveau, et donc, une fois de plus, c'est toujours privilégier les gros au profit des petits.
Ah bah les gros, comme dirait mon camarade Jospin.
Votre truc de marqueur alimentaire est une invention géniale que l'on pourrait mettre à profit pour assurer la traçabilité des aliments et notamment des viandes.
Mais c'est la vérité. De même, je le signale qu'il y a à l'heure actuelle une société de location de voitures américaine qui s'appelle American Car Rental qui a placé une puce dans ses voitures et qui permet, cette puce permet de savoir en permanence d'où vient, où est et où va le loueur, le locataire de la voiture. Oui. Mais mieux que ça, Carental fait signer, American Carental fait signer à ses locataires un contrat de location dans lequel il est indiqué que le locataire s'engage, sous peine de sanctions financières, à respecter les limitations de vitesse, enfin à respecter le code de la route. Et quand le programme informatique qui contrôle ça note que une voiture a dépassé la vitesse limite qui aux États-Unis est de 90 miles, c'est ça, ou 60 miles, a dépassé cette vitesse limite pendant plus de 2 minutes consécutives, l'ordinateur, écoutez bien, c'est fabuleux, donne l'ordre à la comptabilité d'American Car Rental de prélever immédiatement une amende de $150 sur le compte en banque du locataire.
Ils ne demandent pas d'appeler les flics aussi.
Alors, ça fait l'objet en ce moment d'un procès, naturellement, aux États-Unis. Tout fait l'objet de procès en permanence. Ça fait l'objet d'un procès. Mais, alors justement, parce que, comme disait Henri, la police américaine... La police américaine a dit, mais c'est un très bon truc, ça. Et donc, il se prépare aux États-Unis, et probablement en France, ça va venir aussi, une disposition par laquelle les compagnies d'assurance vont dire aux propriétaires d'automobiles, si vous acceptez de placer une puce dans votre automobile de repérage satellitaire, ça permettra de réduire votre prime d'assurance, puisqu'ainsi, si votre voiture est volée, on pourra repérer immédiatement où elle est. Ce qui permettra à la police de se doter de ce système-là, et donc de sanctionner les excès de vitesse sans même faire l'effort de mettre qui que ce soit sur la route. C'est-à-dire que dès que vous enfoncerez le pied pendant plus de 2 minutes consécutives, le satellite signalera à l'ordinateur central de la police que vous avez dépassé l'excès de vitesse et prélèvera directement sur votre compte en banque le montant de l'amende.
Il y a des chauffeurs de ministres qui vont être embêtés.
Big Brother n'est pas mort.
Oh, mais Big Brother n'est pas mort du tout. On était déjà dans la collusion, on le voit dans les élevages porcins, et ça continue ailleurs.
À propos de pollution, on veut actuellement interdire aux propriétaires de pénichettes fluviales de rejeter leurs eaux, légèrement usées, dans les canaux, alors que les champs qui bordent les cours d'eau provoquent 99,9% de la pollution.
Absolument. Je vous informe que la fameuse porcherie dont je vous parlais tout à l'heure, pour 2000 et quelques porcs, produit par an 4900 tonnes, dont 4900 mètres cubes de lisier. J'ajoute pour la petite histoire que l'offensive porcine en Cotentin sous la houlette du Conseil Général continue, et je viens de découvrir qu'il y avait des porcheries pour lesquelles on ouvre aujourd'hui des enquêtes publiques, alors qu'elles existent depuis plus de 10 ans, et qu'en fait ces enquêtes ne servent qu'à régulariser leur présence. C'est d'autant plus amusant.
Mais qui touche là-dedans? Parce qu'il y a des gens qui touchent pour des combines comme ça. À qui ça rapporte de l'argent? C'est ça, je ne comprends pas très bien. On sait bien que les éleveurs de porc, ils sont pas milliardaires.
Pour le moment, les éleveurs de porc pavoisent.
Il y a quand même un gros marché qui leur est fermé.
Depuis la crise de l'ESB, le cours du porc a quasiment doublé. Alors, pour quelques mois, ils peuvent pavoiser. Mais dans quelques mois...
Pas. Plus il y a d'immigrés, malgré en France, et plus le porc se vend. Ça va pas, ça. À qui ils vendent?
Ah, écoutez, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est passé, la consommation de viande bovine a été divisée par 3. Maintenant, elle remonte, elle a atteint à peu près 70% de ce qu'elle était avant. Donc, dans l'intervalle, les gens se sont rabattus en partie sur le porc et en partie sur le cheval. Le prix des chevaux de boucherie, je le sais bien pour d'autres raisons que vous connaissez, lui a doublé en 2 mois de temps. Ça, c'est clair. mais dans quelques mois, le cours du port. Le chien, pas encore, c'est réservé aux Coréens. Vous savez que les Chinois et les Coréens ont essayé de se lancer dans l'élevage du Saint-Bernard, ce qui a ému un certain nombre de gens.
Ils n'ont pas le monopole de... du chien.
Connaissez-vous le livre Les Sillons de la Colère d'André Pochon?
Oui, mais malheureusement, je ne l'ai pas lu et je ne m'en flatte pas.
J'en ai entendu causer, comme disait...
Tout à fait. Il faudrait que je me le procure.
Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu causer. Ouais, c'était Cavana qui disait ça. Dans
Pouvez-vous nous dire chez quel éditeur a été publié Les Radis de la Colère?
Les Radis de la Colère, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet. Les Radis de la Colère, c'est l'affaire de la secte, la prétendue secte Horus, dont j'avais reçu des membres et l'avocat à ce micro. Et bon, si on veut l'information précise, je peux la donner, pas maintenant, mais il faudrait m'envoyer un petit mot au Libre Journal, 4 Place France Liste, 75-010 Paris. Vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement de 700 francs pour que je réponde à la question.
Que pensez-vous de la culture biologique? C'est la dernière question.
Bien, j'ai commencé à l'aborder un tout petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, je souhaitais le faire. Il faut comprendre que la culture biologique ne peut pas être faite à partir de la récupération d'animaux ou de plantes sélectionnées telles qu'on les a à l'heure actuelle, remises, entre guillemets, à l'état naturel. Parce que ce sont des animaux ou des plantes qui ont été beaucoup trop trafiquées et qui ne sont plus susceptibles de vivre et de se développer comme les autres le faisaient auparavant. Donc pour refaire une agriculture biologique cohérente, il faut remonter toute la filière depuis le départ. Il faut casser 30 ans de sélection productiviste telle que l'a fait l'INRA. Je prendrai un exemple très simple. Dieu sait que Beignet, président et autres Gloria essayent depuis des années de faire des labels sur les fromages. Eh bien, il est évident que vous ne ferez jamais du camembert de qualité avec du lait de Holstein sélectionné, élevé en stabulation à l'ensilage de maïs. C'est pas la peine. Donc, il faut commencer par refaire des prairies et non pas utiliser les primes que donne la PAC, parce que la PAC en donne, pour détruire les prairies naturelles qui sont riches de dizaines de variétés de graminées classiques, pour les remplacer par du raie gras complètement insipide qui, de toute façon, ne permet pas à l'animal de se nourrir avec la même variété. C'est donc un problème assez complexe. Beaucoup de petits agriculteurs le font. Il y en a qui s'entêtent, qui s'obstinent. Mais, malheureusement, on ne peut pas dire que derrière la grande distribution leur facilite la tâche et ils n'arrivent pas à écouler leurs produits, ni au prix, ni avec la rapidité qu'ils souhaitent.
Merci Claude Timmermans. Il est brillant, hein?
Très.
Je prends le bec avec tout le monde. Alors, Henri de Lesquin, je vais vous donner quelques informations que j'ai prélevées dans le Parisien. Là, le Parisien qui vient de sortir, hein? Donc, vous avez tous entendu parler de la vague de violence dans les piscines. Vous savez que les jeunes veulent porter des slips, des shorts dans les piscines. Et pas des slips. Et les directeurs de piscine veulent les obliger à porter des slips et pas des shorts parce qu'ils disent que avec les shorts, ils vont dans la rue et ensuite dans l'eau. Avec les slips, ils sont censés pas se promener dans la rue avec ce qui est d'ailleurs une connerie, mais enfin, peu importe. Et alors, les slips de bain, oui. Et alors, les arguments des jeunes, c'est de dire, oui, mais alors, le Coran dit qu'on n'a pas le droit de montrer ses jambes. Alors, en quelque sorte, le short, ça serait comme une espèce de tchador pour les hommes, quoi. Donc on en est arrivé à ça maintenant. Il y a un problème au niveau des piscines, rapport au tchador jambière des jeunes qui ne veulent pas montrer leurs jambes. D'ailleurs, à mon avis, ils pourraient aussi bien ne pas aller à la piscine, ça va encore mieux.
Mais il n'y a pas de jeunes filles en bikini qui posent des problèmes par rapport à un maillot de bain plus long?
N'en prive pas d'évocation de ce genre.
Non, mais j'essaye de m'instruire.
Qui lève le cœur. Alors, ça c'est une chose. Donc, le résultat, c'est qu'à la piscine de Lyon, comme ils n'étaient pas contents, ils ont mis la voiture du directeur dans la piscine.
Il fallait bien la laver.
Je vous signale, méfiez-vous Serge, c'est que de plus en plus de jeunes Français de souche prennent cet accent.
De souche.
Mais spontanément.
Oui,
c'est par influence, influence de leur milieu social, de leurs camarades de classe.
Et de la télévision.
Le caïd, c'est le cas de le dire, parlant de cette manière-là, plus jeunes, qui sont dans la même classe que lui, prennent le même accent.
C'est pour ça qu'il faut
réagir. L'intégration.
C'est ça qu'il faut réagir. L'intégration à l'envers, l'assimilation à l'envers.
Alors maintenant, je continue, si vous voulez. C'est sur une journée, ça. Une journée en région parisienne. Paris, région parisienne. À Angers, les policiers interpellent en flagrant délit deux jeunes en train de cambrioler un supermarché après être entrés dans un trou, par un trou ménagé dans le toit. Gambaya et Saïd, 20 ans, sont en garde à vue. À Vitry, deux dealers arrêtés au terme d'une course-poursuite. Sur le mineur de 17 ans, les fonctionnaires retrouvent 22 barrettes de résine de cannabis, tandis que Jimmy, 20 ans, cache sur lui une barrette. Alors, ça, Jimmy, c'est un Américain, probablement. Beaucoup d'Américains dans ces affaires-là, vous allez voir. Maison et le fort accrochage entre un bus. D'ailleurs, il faut arrêter les Américains de faire des trucs en France. Il faut, hein, y a Jimmy, il y a James, il y a... Enfin, c'est incroyable. Accrochage entre un bus de la ligne 281 et de la RATP et une Mercedes. Le conducteur de la voiture descend... casse la gueule du conducteur d'autobus, la police arrive, tente d'arrêter le conducteur de la Mercedes, qui se bat avec les flics, qui appelle en renfort les jeunes de la cité des Planètes, située non loin du lieu de l'accrochage, déferlement des jeunes, bagarre, un policier blessé, deux agresseurs sont en garde à vue, le machiniste et le policier sont à l'hôpital dans Raymond d'Or. Alors effectivement, ils sont arrivés, ils ont dit « Bijoux, monsieur !»
Et le truc qui m'étonne, c'est que quand même, ils roulent en Mercedes dans une cité où à peu près la moitié de la population doit être au RMI.
Voilà, le racisme de classe. Pourquoi ils n'auraient pas des Mercedes, ces gens-là ?
Il y a deux hypothèses. Ou bien ils l'ont volé, ou bien ils l'ont volé, ou bien ils l'ont financé par la drogue.
Non, je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille.
Ou alors ils sont footballeurs.
Non, pas du tout.
Ou alors ils jouent au foot.
Ah, peut-être. Peut-être que c'est un jeune footballeur, on ne sait pas. D'autre part, ils font déjà des sacrifices sur la nourriture et sur le loyer. Ils peuvent quand même s'offrir des belles voitures. Parce que pour aller vivre à Maison Alfort dans la Cité des Planètes, il faut quand même... Bon, et ben le gars, il dit, moi, je préfère avoir une belle voiture, une Mercedes, plutôt que de payer un loyer important dans un appartement parisien. Alors, effectivement, il va vivre à la Cité des Planètes et il a sa Mercedes. Ça peut être surprenant, mais les explications que vous avancez, mon cher Henri Descamps, me paraissent aventureuses. Je ne peux pas adhérer.
Oui, en fait, c'est pas surprenant, parce que quand il est dans la Cité des Planètes, de toute façon, il bénéficie d'une allocation logement qui est payée avec vos impôts et les miens, donc
le problème c'est normal, c'est tellement drôle de vivre à la Cité des Planètes, Ziva. Bon, à Levallois, Folco, c'est un Corse probablement, 19 ans, et un complice tabasse et détruise un autre jeune dans le train Levallois-Paris. Une heure plus tard, Folco est arrêté en possession de la montre, des baskets et du portable de sa victime. Il refuse de donner l'identité de son complice, qu'il appelle James, voyez, encore un Américain, je vous l'avais dit.
Peut-être un Britannique. Hein.
Un Britannique. Et il va retourner en prison, où il purgeait depuis plusieurs mois une condamnation pour une autre affaire. Donc, pour le moment, il était sorti. Bon.
Clichy. Pour s'offrir une paire de baskets neuves.
Ah, bah voilà ça.
Pour conduire la Mercedes.
À Clichy, condamné à 12 reprises par les tribunaux de Pau, Évry, Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre, Jamel, 34 ans, comparé une fois de plus, et jure qu'il a réfléchi et qu'il ne continuera pas comme ça.
La prochaine fois, il ne sera pas piqué.
Pas comme ça. La prochaine fois, je ne me fais pas prendre. Hein.
Combien de fois, vous avez dit ?
12 fois.
12 fois. Et il a 34 ans.
Bonne moyenne.
En fait, il n'a pas dû rester en prison très longtemps. Non. À chaque fois.
Nogent-sur-Oise, deux jeunes de 16 et 17 ans interpellés après l'incendie survenu dimanche en fin d'après-midi dans un immeuble situé 3 rue du Dr Schweitzer à Nogent. Tiens, il faut les lire les livres du docteur Schweitzer. Si vous savez, ça c'est quand même j'en dirai pas plus. Ils avaient mis le feu à la cabine d'ascenseur, provoquant d'importants dégâts. Ils ont été présentés hier au parquet de Saint-Lys. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tous ces gens-là, ils mettent le feu à leur bagnole en bas de leur cité, donc à leur voiture. Ils brûlent leurs ascenseurs, ils cassent leurs vitres, ils détruisent l'environnement dans lequel ils vivent. C'est curieux comme comportement. C'est des chiens fous, quoi. Ils mordent leurs plaies, des chiens enragés. Projectiles sur des policiers à Meaux, dans le quartier de la Pierre-Collinet, les policiers et les pompiers venus pour une voiture en feu ont eu droit à l'accueil traditionnel. Ça, c'est ce que dit le Parisien, c'est textuel. L'accueil traditionnel, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'accueil traditionnel ? Eh bien, ils ont reçu des projectiles provenant des derniers étages du bâtiment Fougère. Réussissant à se faufiler sur le toit, les policiers ont arrêté 4 jeunes qui jetaient des canettes et des carreaux de carrelage visiblement fraîchement décollés des couloirs de l'immeuble. Donc, ils arrachent leurs propres immeubles. Des objets qui jetaient d'une telle hauteur auraient pu provoquer de sérieuses blessures s'ils avaient atteint leur cible. Tous les jeunes, par les objets, avaient déjà eu affaire à la police. Le meneur du groupe, 20 ans, a été récemment arrêté pour des faits de violence. Le plus jeune a 17 ans. Leur motivation, casser la gueule des flics. Aux Ulysses, après l'interpellation et l'incarcération d'un délinquant multirécidiviste vendredi dernier, des jeunes du quartier des Amonts ont incendié 2 bâtiments du collège, des kiosques en bois destinés à recueillir des livres d'occasion et plusieurs bosquets. À leur arrivée au collège, les pompiers ont reçu un pavé sur le toit de leur camion. Enfin, c'est pas varié d'ailleurs, il faut bien reconnaître. Le principal du collège a affirmé « Ceci ne remet pas en cause notre politique contre la violence à l'école. »
C'est vrai, la violence s'exerce à l'extérieur de l'école.
Corbeil-Essonne, des dizaines de jeunes issus des Tarterets et des Pyramides se sont cherchés entre le quartier de l'Agora et de la place Jules Vallès, jouant à cache-cache avec les forces de l'ordre. Ça aussi, c'est du parisien. Ils appellent ça jouer à cache-cache. Les incidents ont débuté lundi en milieu d'après-midi avec l'agression d'un adjoint de sécurité de la SNCF à la gare RER de Corbeil. L'agresseur présumé a été interpellé. Mais cette arrestation n'a pas calmé les esprits, si tu parles. Un jeune a été interpellé avec un couteau sur lui. Vers 20h, un bus de la TICE qui dessert les communes de l'agglomération de la Ville Nouvelle a été pris pour cible. Une des vitres du véhicule a été cassée par une pierre en emportant le responsable de cet acte de vandalisme. Écoutez bien, chers auditeurs. En emportant le responsable de cet acte de vandalisme, virgule, un petit garçon de 5 ans, virgule, les policiers ont reçu des jets de projectiles, la situation est devenue quasiment normale vers 22h, et des opérations de sécurisation ont été menées toute la nuit pour éviter tout nouveau débordement. Dans la soirée, les parents du petit garçon sont venus le chercher au commissariat, on espère qu'on leur a rendu les pierres. À Quincy sous Sénart, affrontement entre bandes du Vieillet et de Quincy. Un jeune du Vieillet a été interpellé après une première rixe en gare de Boussy à l'origine de l'opération punitive. Une bagarre entre jeunes de la cité des cinéastes, d'Épinay-sous-Sénart et du Vieillet pour une histoire de cigarettes refusées. Le jeune du Vieillet a sorti un cutter, 40 points de suture pour son agresseur victime. Le lendemain soir, vers 23h, les jeunes des cinéastes ont organisé une opération punitive au Vieillet. À bord de 3 voitures, ils repèrent Tariq, 26 ans, le frère de l'auteur du coup de cutter. L'un des individus fait feu au fusil à pompe, blessant Tariq grièvement à l'artère fémorale. Il va être amputé, le jeune Tariq. Auteuil-le-Roi, série de vols dans la nuit du dimanche à lundi. En quelques heures, dans le même quartier, un véhicule a été dégradé, une résidence secondaire cambriolée, une moto a été violée. On dit qu'ils sont paresseux. Non, je ne sais pas ce qu'ils vous font. Les auteurs des faits aujourd'hui en fuite pourraient être des individus circulant à bord d'une Renault R21 blanche.
La voiture, vous voyez que tout le monde n'a pas de Mercedes.
Eh bien sûr, mais elle est blanche, la Renault 21. Dans la nuit de dimanche à lundi, à Carrières-sous-Poissy, deux enfants ont réussi à pénétrer à l'intérieur de deux enfants. Du magasin Leclerc de Carrière, ils avaient dérobé plusieurs bouteilles de jus de fruits lorsqu'ils ont été repérés par un vigile, entendu lundi par les policiers du commissariat de Saint-Germain-en-Laye, ils ont été remis en liberté.
Ça, c'est pas
Rambouillet, voilà la roulotte, trois jeunes de 14 à 16 ans interpellés dans la nuit du dimanche à lundi en flagrant délit de vol, ils venaient de voler un couteau dans une voiture stationnée dans le parc du château de Rambouillet. Alors le couteau, faut savoir à qui il appartenait. Et au Vésinet, alors ça c'est la plus belle, celle-là, un jeune a fabriqué du faux cannabis avec du henné. La semaine dernière, il a ainsi berné deux de ses camarades. Ces derniers lui ont acheté pour 50 francs de prétendu cannabis. Ils ont été malades tout l'après-midi. Le collégien a été auditionné au commissariat du Vésinet, puis remis en liberté. Alors, on ne sait pas si on l'a reproché de vendre du Vésinet ou d'avoir rendu ses petits camarades malades.
On a dû lui reprocher d'avoir frelaté la drogue.
Voilà.
Il se prépare une bonne carrière dans l'agroalimentaire.
Très certainement.
Écoutez, je me vendais de la drogue tant que vous voulez, mais au moins de la bonne. Enfin, vous allez nous les rendre malades. C'est fabuleux, on croit arriver. Alors,
je crois comprendre.
Peut-on parler de l'immigration après tout ça ?
Je crois comprendre, cher Serge, de tout ce que vous venez de dire, que vous faites un lien entre l'immigration et l'insécurité.
Ah, pas du tout. Alors là, je ne sais pas où vous êtes allé.
Eh bien, vous avez raison.
Moi, je n'ai pas dit ça du tout.
Vous avez raison, car ce lien existe. Ce lien existe.
Je vous laisse la responsabilité de ce
point. Ce lien existe. Il est en partie dans les statistiques, mais très peu, parce que si les statistiques sont une manière de mentir, en France, on ment d'autant plus qu'on cache les faits, qu'on interdit certains recensements. On ne communique plus, par exemple, depuis des années, la proportion d'étrangers
mais je vous
dans les prisons françaises.
J'ai dit, c'est des jeunes, voilà. Les articles. Alors, ne parlent que des
peut-on
jeunes.
Peut-on parler d'immigration ? On a le droit d'en parler à condition de dire les jeunes. Mais vous n'avez pas le droit de dire les jeunes immigrés, alors que ce sont, la plupart du temps, des jeunes immigrés. C'est-à-dire soit des étrangers, soit le plus souvent, ou aussi souvent, gens qui ont la double nationalité, française et étrangère, française et algérienne, française et marocaine, française et tunisienne, etc. Donc, le lien existe. Il est intéressant d'ailleurs à constater, mais il appelle une double réponse. Une réponse qui est la politique de l'immigration et une autre réponse qui est la politique de la sécurité. Car même dans une société multiculturelle, en durcissant la répression, en organisant les forces de police et la justice comme il se doit, on peut rétablir une sécurité de plus en plus acceptable. C'est ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont une société qui devient vraiment multiculturelle, avec des minorités ethniques extrêmement importantes, et qui vont d'ailleurs au total devenir globalement une majorité, puisque les Blancs vont devenir minoritaires dans quelques dizaines d'années aux États-Unis, semble-t-il. Ils le sont déjà en Californie. Mais la politique dite de tolérance zéro, plus généralement d'ailleurs le renforcement de la répression, a permis de diviser considérablement la criminalité, les chiffres de criminalité et de délinquance aux États-Unis, à tel point que M. Alain Bauer, qui n'est pas simplement un grand maître du Grand Orient de France, mais qui est aussi un grand spécialiste des questions de sécurité, vient de publier une étude dont la presse a beaucoup parlé, puisqu'elle montre que les courbes de la délinquance des États-Unis et de la France viennent de se croiser. Elle monte en France, la délinquance, elle diminue aux États-Unis. Les États-Unis gardent l'avantage pour la
fusillade au fusil à pompe montre que dans les guerres des gangs, on est en train d'arriver au statut.
Alors, les États-Unis qui ont une tradition de violence et qui sont quand même beaucoup plus multiculturels que nous, beaucoup plus multiraciaux si vous voulez que nous, gardent l'avantage, si je puis dire, pour la criminalité la plus violente. Il reste encore beaucoup plus d'assassinats, d'homicides, de meurtres en tout genre aux États-Unis qu'en France. Bien que les courbes, là aussi, se rapprochent. Les courbes se rapprochent.
Mais est-ce qu'elles sont rapportées au nombre
de
la population?
Bien entendu, c'est rapporté. Oui, j'ai quand même écouté là. C'est élémentaire, mon cher Watson. On divise le nombre de crimes par le nombre de gens. Ça, évidemment, sinon, les chiffres n'auraient pas de sens. Alors, je crois qu'il y a deux réponses. D'abord, bien entendu, les anecdotes que vous avez citées, enfin, les faits divers, qui sont plus que des anecdotes, montrent qu'il y a dans notre pays des zones de non-droit, des quartiers où la police n'ose pas aller, ose à peine aller. Et c'est un scandale. La loi républicaine doit s'appliquer partout. Elle
ça,
devra s'appliquer partout.
C'est une journée d'activité. Ouais,
non, mais attendez.
Il faut multiplier par 350 par an pour savoir ce qui se passe.
Ajouter que d'innombrables faits divers ne sont tout simplement pas rapportés par la presse. Ajouter, par exemple, comme vient de le montrer une étude qui a été faite sous les auspices de la région d'Île-de-France et qui est une étude de victimisation.
600 000.
C'était tout à montrer que le quart des franciliens, des habitants de la région d'Île-de-France, avaient été victimes au moins une fois dans les dernières années d'un délit quelconque. Et les chiffres officiels, on savait qu'ils sous-estimaient la réalité. Maintenant, on a pour la première fois une étude scientifique qui démontre que cette sous-estimation est considérable. Beaucoup de gens, tout simplement, ne portent pas plainte parce qu'ils savent que ça ne servira à rien, que la police ne se dérangera pas, et même qu'elle cherche, dans bien des cas, à dissuader le plaignant de porter plainte. Chaque commissariat a ses statistiques. Et il estime que le plaignant, c'est un dangereux empêcheur de tourner en rond qui va polluer les statistiques. Là, c'est une pollution d'une autre nature.
C'est vrai.
La main courante ne sert à peu près à rien, mais au moins.
Ça ne sert à rien parce que c'est absolument pas pris en compte.
On vous laisse aller jusqu'à la main courante. Figurez-vous que j'ai eu une fois l'expérience. J'avais été empêché de faire une réunion sur l'immigration, je crois que c'était à Bourg-en-Bresse ou à Belfort, je ne sais plus. Par une meute de gauchistes qui avait bloqué la salle, je suis allé porter plainte avec quelques-uns des participants qui voulaient assister à cette conférence au commissariat de police. Et nous avons eu le plus grand mal à obtenir qu'on nous communique la main courante pour pouvoir porter notre plainte. Ils ne voulaient pas. Et vous savez, un agent de police qui veut faire l'imbécile, il y arrive très facilement. Hein.
C'est un entraînement spécial.
Donc nous sommes dans une situation où la politique qui est menée en France va à l'inverse du résultat que cherchent tous les Français, à savoir l'amélioration de la sécurité. Vous savez que la politique de la ville a été inventée pour qu'on ne parle pas aussi d'immigration. A-t-on le droit de parler d'immigration ? On n'a pas le droit de parler d'immigration sur les sujets qui fâchent. On dit les jeunes, on dit la politique de la ville au lieu de parler de la politique de l'immigration. Bon. Et en quoi consiste la politique de la ville ? Elle consiste à arroser les cités et les gens qui les habitent dans la mesure où ils sont délinquants. Toutes ces mesures dispendieuses de prévention ne peuvent avoir que l'effet inverse de celui qui est attendu, puisque au lieu de punir et de sévir contre ceux qui ont commis des délits, on les gratifie de coller de vacances, de voyages organisés au bord de la mer, de toutes sortes de programmation de loisirs, de toutes sortes d'assistance aux loisirs qui ont...
Vous verrez dans le prochain Libre Journal, il y a le témoignage que j'ai tiré d'ailleurs d'un site internet qui s'appelle SOS Racaille, qui est très très bien fait. Le témoignage d'un directeur d'aéroclub, où il explique comment on lui a collé d'office une bande de jeunes qui sortaient de prison au lendemain de l'amnistie traditionnelle du 14 juillet en 98. On lui a apporté la bande de jeunes en disant voilà, il faut leur enseigner le pilotage.
Voilà, non mais je voudrais vous expliquer, permettez-moi de théoriser un peu parce que là je crois qu'on arrive vraiment cette question de sécurité, de politique de sécurité, montre bien les différentes conceptions de l'homme qui s'opposent. Vous avez d'un côté la conception de la gauche socialiste, égalitaire, qui considère que le criminel ou le délinquant est une victime de la société. Bon, c'est la société qui est criminogène. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des circonstances qui peuvent être atténuantes, qui peuvent faciliter le développement de la criminalité ou de la délinquance. Mais le principe rousseauiste et socialiste, c'est que c'est la société qui corrompt l'homme, lequel est naturellement bon. Et dans cette perspective, il faut peut-être faire la révolution pour changer la société, en tout cas la changer de fond en comble en la basant sur des, en la fondant sur des principes socialistes. Mais il faut aussi rééduquer, pratiquer une éducation nouvelle qui permettra à l'ancien délinquant de comprendre qu'il peut finalement mieux réussir dans la vie par des façons d'agir plus insérées, plus intégrées et plus agréables pour ses contemporains. Eh bien, l'autre conception de l'homme, qui est propre au christianisme et qui est plus généralement celle de la civilisation occidentale, c'est que l'homme est responsable de ses actes. Il est responsable personnellement de ses actes. Alors, il y a bien sûr les exceptions qu'on connaît, il y a les enfants, il y a les fous, etc. Mais l'homme, fondamentalement, sauf preuve contraire, doit être considéré comme responsable. Et la répression, c'est-à-dire la peine, petite ou grande, bien sûr, elle doit être d'une certaine manière proportionnée à la faute, mais sans la peine, sans l'administration de la peine, c'est le sens moral qui disparaît. Et c'est pourquoi cette politique de la ville, cette politique, cette dite de prévention qui en fait ne fait qu'accompagner la montée des chiffres de la délinquance et de la criminalité, est perverse. Parce que, au-delà de l'effet immédiat, elle fait perdre le sens moral aux délinquants. Elle leur fait croire que finalement, ils ont raison d'agir comme des prédateurs. Et que certes, il faut être un peu malin, il faut laisser croire à l'éducateur qu'on veut bien, ou au juge des enfants, ou au juge même des adultes, que l'on est prêt à donner un peu du sien. Mais moyennant quoi, avec un peu d'hypocrisie, un peu de ruse, on arrivera toujours à s'en sortir. Et même à la 12e reprise, on sera encore libéré sans jamais avoir reçu une véritable sanction. Vous savez, les individus, c'est une approche aussi responsable, mais aussi libérale de la chose, au sens vrai du libéralisme. Les individus, la plupart du temps, ils sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils calculent les conséquences de leurs actes. Et finalement, quand on est en banlieue, dans un quartier difficile, il vaut mieux être un caïd, faire de temps en temps un coup, faire un peu de trafic de drogue, parfois une petite agression, c'est pas très difficile de voler un sac à main à une jeune fille ou à une jeune vieille dame. Hein.
Je sais pas, vous êtes peut-être mieux passé que moi, je sais pas.
Non, mais
j'ai pas beaucoup d'expérience.
C'est pas très difficile.
C'est pas très bon la course à pied.
Ça n'est. Vous n'avez pas besoin de courir, vous prenez le sac à main et vous partez. La vieille dame, vous savez qu'elle fasse. Elle se met à pleurer, c'est tout.
Vous êtes plus informé que moi.
Et elle n'ose même pas porter plainte, donc c'est extrêmement facile.
Faites ça, Victor.
Vous ne risquez pas grand-chose. Et vous risqueriez quelque chose si on vous sanctionnait. Mais si vous êtes un jeune de moins de 18 ans, avec l'ordonnance de 45 sur la jeunesse, là, vous êtes à peu près sûr de ne rien avoir, même à la 12e reprise. Une des premières choses, c'est de prendre cette ordonnance de 45 et de la brûler, d'en faire un autodafé, pardonnez-moi mon père de faire cette référence historique. Mais je crois qu'il faut appliquer la justice, y compris aux enfants, bien sûr, et aux adolescents, bien entendu en tenant compte des circonstances atténuantes, de l'excuse, de l'âge, etc. Mais il ne faut pas que sous prétexte d'individualisation de la peine et d'éducation, on fasse perdre le sens moral aux enfants. C'est le pire service qu'on puisse leur rendre.
Henri de Lesquin, ça c'est la théorie. Maintenant,
c'est la pratique aussi.
Oui,
la tolérance zéro, c'est la pratique.
Il nous reste 3 minutes pour que vous répondiez à cette question. En quoi un mouvement, une association, un mouvement, un groupe comme La Voix des Français peut-il intervenir d'une façon positive, efficace, pour que ça change, pour que ça évolue dans ce domaine?
Alors la Voix des Français n'est pas... là, je vous parlais plutôt en tant que président du Club de l'Horloge, mais la Voix des Français est une association, la Voix des Français en 1995, qui se consacre à la question de l'immigration et qui explique aux Français que les immigrés, que les Français, que les pays d'immigration sont victimes de cette politique folle d'immigration que nous subissons. L'insécurité n'est qu'un des aspects de la chose. Évidemment, c'est un aspect qui est vécu par les Français dans leur vie quotidienne. Mais ce qui est de plus grave dans ce phénomène de l'immigration, au-delà de l'insécurité, c'est que c'est la vie même de la France qui est en cause. C'est que la France est menacée de mourir, de disparaître, d'être détruite par cette immigration surabondante. Et que On installe en France des populations déracinées qui n'ont pas gardé ou qui perdent la culture de leur pays d'origine et qui ne sont plus rien nulle part, qui ne sont ni français ni en vérité algériens ou centrafricains. On citait leur nom, Jimmy en fait il s'appelle Abdel visiblement. Et pourquoi il s'appelle Jimmy? Parce que il prend l'éthique de la culture à la mode.
Alors, un mot, j'entendais, c'est hier, j'étais drôle, dans un magasin Ed, et il y avait deux vendeurs qui parlaient, enfin un vendeur et une vendeuse. Et la vendeuse appelle le vendeur, qui était probablement un jeune Sénégalais, je sais pas, et elle lui dit, Mathurin, il s'appelle Mathurin, je n'ai pas les prénoms qu'on donne souvent là-bas. Et elle lui dit, Mathurin, viens voir. Et il lui dit, je t'ai déjà dit de pas m'appeler Mathurin, pour les copains, je m'appelle Mike.
Voilà, voilà, voilà. Et bon, remarquez pour l'anecdote que Kevin était il y a quelques années le prénom français le plus courant, enfin oui, le plus donné à la naissance, parce que c'était le nom d'un acteur américain dont j'ai oublié le nom, Kevin Costner, si je m'amuse. Voilà, bon. Donc l'immigration, qui est d'ailleurs favorisée par l'impérialisme américain, contribue à cette perte d'identité de tout le monde, des Français et des immigrés. Bon. Alors là, ce que propose Voix des Français, c'est une prise de conscience, au-delà des partis politiques, c'est une association indépendante des partis politiques, que l'immigration non seulement n'est pas acceptable, mais qu'il ne faut pas l'accepter, et qu'il y a des réponses à l'immigration, qu'il y a la possibilité, car les Français savent que l'immigration n'est pas une chance pour la France, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des solutions, que ces solutions ont été expliquées, écrites dans des livres qui ont été publiés par Voix des Français ou par le Club de l'Horloge.
Alors, je vous demande l'adresse, il faut la rappeler, bien qu'elle ait été souvent donnée à cette antenne, à laquelle on...
Alors, écoutez, l'adresse de Voix des Français, c'est une boîte postale à Neuilly, dont je n'ai pas le numéro en tête, alors je vais vous donner où. Et je vous donne celui du Club. Vous pouvez écrire au Club de l'Horloge, 4 rue de Stockholm. Donc écrivez au bonsoir du Club de l'Horloge, 4 rue de Stockholm, 75008 Paris, 01 42 94 14 14 01 42 94 14 14.
Merci Henri de Lesquin. À bientôt. La deuxième partie, nous parlerons de trois livres. Le premier, c'est Apaiser la terreur de William Bush. C'est un livre qui est édité par les éditions Clovis et qui va être présenté tout de suite par Monsieur l'abbé Cellier. Le deuxième livre dont nous parlerons, c'est le livre de Monique Beljanski, Mirko Beljanski, ou la chronique d'une fatwa scientifique. Je rappelle que la fatwa est un jugement porté, une condamnation plus exactement portée par les tribunaux fondamentalistes islamiques. Et donc l'appellation de fatwa scientifique dit très bien ce qu'elle veut dire. Et le troisième livre dont nous parlerons, c'est un livre de Jocelyne Godard qui est paru aux éditions Le Sémaphore, qui s'appelle qui est une série de livres plus exactement, une série de 7 ouvrages, qui s'appelle Les Thébaines. Ce sont des romans qui se passent dans l'Égypte ancienne à peu près au XVIe siècle avant le Christ. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne ce volume qui s'appelle Les Dieux Indélicats, et qui donne qui fait découvrir une Égypte ancienne d'une façon beaucoup plus attrayante, je trouve, que nos livres d'histoire, encore que c'était la partie la moins ennuyeuse des livres d'histoire, vous trouvez pas? Moi,
j'étais... Oui, c'était en sixième, on était déçus en sixième.
J'adorais l'Égypte.
Voilà, l'Égypte, ensuite les Grecs et les Romains.
Et les Romains. Ça, c'était le problème. Voilà, monsieur l'abbé, alors, c'est quand même curieux de ressortir un livre sur les Carmélites de Compiègne, parce que c'est un peu une histoire... d'abord connu et ensuite qui a été traité par des auteurs, si j'ose dire, plus fameux que William Bush.
Alors William Bush, donc c'est un auteur fameux, donc c'est un Canadien d'origine américaine. Hein. Il est né américain, puis il a pris la nationalité.
Il a commencé à se soigner.
Voilà, il a pris la nationalité canadienne et sur lequel il insiste beaucoup. Il dit je ne suis plus américain, je suis canadien. Et c'est un spécialiste de Bernanos. Donc c'est un spécialiste connu de Bernanos en français. Il a fait un certain nombre de livres en français. Il a notamment édité des éditions critiques des livres de Bernanos. Et à partir de cela, il s'est trouvé qu'ayant des relations avec la famille Bernanos, il a aidé la famille Bernanos au moment où la famille Bernanos voulait monter le dialogue des Carmélites dans les années 80. Et de là, il a redécouvert le dialogue des Carmélites, auquel il ne s'était pas forcément intéressé depuis un certain temps, et il a eu envie d'aller un petit peu plus loin, et il s'est rendu au Carmel de Compiègne, où il a passé quelques mois de travail, de découverte, etc. Et c'est là que les Carmélites de Compiègne lui ont demandé de faire l'édition critique des souvenirs de la survivante. Donc il y a une survivante du massacre qui n'était pas là ce jour-là et qui a écrit un certain nombre de souvenirs. Et il a, à la demande des Carmélites, donc édité l'édition critique au Serre. Et à partir de cela, à partir de ces travaux, donc ça représente, il faut, William Bush a quand même travaillé plus de 15 ans exclusivement sur ce sujet-là. Donc dans le monde entier, puisqu'il y a des souvenirs un petit peu dans le monde entier, puisqu'elles ont croisé dans leur prison, elles ont croisé des bénédictines anglaises qui ont récupéré leurs vêtements, elles ont fait des échanges, etc. Et donc à partir de ce moment-là, il a voulu écrire un ouvrage qui est... Il y a une connaissance totale de l'histoire des Carmélites de Compiègne, mais qui montre l'état d'esprit dans lequel elles sont.
Alors, est-ce que, justement, l'état d'esprit que décrit William Bush correspond à l'état d'esprit que Bernanos avait imaginé?
Oui, voilà, parce que donc le livre de Bernanos est lui-même, d'origine, un livre de cette brave dame, attendez, excusez-moi, j'oublie son nom, voilà, Gertrude von Lefort, qui elle-même, donc, décrit l'état de l'Allemagne à son époque, et à partir de ce thème historique sur lequel elle a retenu quelques éléments épars, elle a créé une histoire complètement inventée. Mmh. Et ce que reprend Bernanos, qui, je le rappelle, écrit son ouvrage au moment où il est en train de mourir, et donc écrit son propre dialogue avec la mort. En réalité, il projette dans Blanche de la Force ses propres angoisses devant la mort. Blanche de la Force, qui est ce personnage inventé par Gertrude von Lefort. Et il, donc ce qu'on connaît à travers Bernanos, à travers von Lefort, à travers le film de Brugberger, et à travers l'opéra de Poulenc, c'est une histoire inventée. Une histoire non historique.
Je vous pose une question incongrue, mais est-ce qu'on peut dire que lire le William Bush, Apaiser la terreur, après le dialogue des Carmélites, c'est un peu comme lire les mémoires du chevalier de Batz après avoir lu les aventures de D'Artagnan?
Non, William Bush est persuadé, et je suis persuadé à sa suite, après avoir lu les deux, que l'histoire réelle, la vérité réelle, est beaucoup plus belle que la littérature, qui est très belle. Hein. C'est un grand littérateur, c'est de grands artistes. Mais la réalité, et notamment le moment où il décrit seconde après seconde, donc le départ, donc le procès, la route vers l'exécution et l'exécution, c'est splendide. Et ce que décrit, donc, vous connaissez la grande scène décrite notamment par l'opéra de Poulenc, où chacune monte à l'échafaud en chantant le Salve Regina, et on monte d'un demi-ton à chaque exécution. C'est une très belle aventure, je dirais, littéraire ou musicale, mais ce qui s'est passé réellement est purement et simplement splendide.
Ah oui.
Une grandeur d'âme. Moi, je dis vraiment, ces femmes, qui sont des grandes saintes, ont été vraiment très, très profondes, mais elles ont surtout une élégance spirituelle et même, je dirais, féminine devant la mort, qui fait quand même, comme le dit le professeur Bush, que sur cette place de l'exécution, où tous les jours il y avait des exécutions, puisque 9 jours sur 10, pendant les décadis, hein, 9 jours sur 10 il y avait des exécutions, donc dans le mois précédent 3000 exécutions, donc c'est des exécutions en masse qui sont en train de se faire. Tous les jours, il y avait les furies de la guillotine, donc des femmes, qui étaient notamment des femmes, mais il y avait aussi des hommes qui étaient là à se moquer des condamnés, etc. Pendant les 3 heures de l'exécution, le silence total. Devant l'élégance, la force d'âme, la tranquillité de ces femmes, vraiment une beauté spirituelle qui transparaît. Silence total pendant 3 heures, en cette fin d'après-midi du 17 juillet, donc il fait lourd, il fait chaud, personne ne parle, et elles montent les unes après les autres à l'échafaud, avec ce qui est très beau, c'est donc au pied de l'échafaud, elles renouvellent leur vœu, et donc la novice... Selon les lois républicaines de la Révolution, la novice n'avait pas pu faire ses vœux, c'était interdit par la loi, la loi interdisait de faire des vœux, donc elle fera ses vœux au pied de l'échafaud, et c'est elle qui la première montera donc à l'échafaud. Et elle a ces deux actes splendides, si vous voulez, la prieure donc, est au pied de l'échafaud. Elle va vers la prieure, se met à genoux comme une moniale, pour demander les permissions. C'est comme ça, hein, une religieuse, c'est comme ça. Elle se met à genoux, elle demande la permission à sa supérieure. Et elle a cette phrase que le Saint-Esprit lui donne. Ma mère, permission de mourir. Je demande la permission de mourir. Et la prieure dit, allez ma fille. Et elle monte, et c'est là qu'en montant les marches, le Saint-Esprit lui inspire de, non pas le Salve Regina qu'elles ont chanté dans les charrettes qui vont vers l'échafaud, mais elle chante le Laudate Dominum, c'est-à-dire un chant de louange du Seigneur, parce que tout est beau, puisqu'elles se donnent à Dieu et qu'elles n'ont pas, elles n'ont aucun retour sur elles-mêmes, elles ne pensent pas à la souffrance, tout est à Dieu.
Est-ce qu'il y a un enseignement à tirer? Je crois que vous le faites dans le numéro de Fidélitaire, parce que vous consacrez un article.
Voilà, donc dans le numéro de Fidélitaire qui paraît, donc qui vient de paraître, le numéro de juillet-août, le numéro 142, donc nous avons fait un entretien avec le professeur Bush, qui nous explique le centre de sa réflexion, et le centre de sa réflexion, c'est que contrairement à des pensées qui nous viennent souvent que le martyr c'est un acte de force de celui qui courageusement, non, il montre que le martyr, et c'est ça l'un des buts de son livre, le martyr, la manifestation divine, c'est la réponse de Dieu au crime de la révolution. Dieu, dans ce martyr des Carmélites, manifeste qu'il est toujours là, qu'il est toujours puissant, qu'il est toujours miséricordieux. Et, comme le montre le professeur Bush, vous savez qu'on est en pleine terreur, c'est la grande terreur. 10 jours après l'exécution des religieuses, comme l'avaient dit plusieurs prophéties, 10 jours après, donc, Robespierre est guillotiné dans une scène d'épouvante, et la grande terreur s'arrête grâce au sacrifice de celles qui sont allées jusqu'à la mort. Donc dans ce numéro de Fidélitaire, donc nous avons cet entretien, puis nous avons voulu un petit peu montrer, en profiter pour montrer cette réponse. Souvent on dit la révolution est arrivée, est-ce qu'on a fait quelque chose? Oui, cette réponse à l'idéologie des Lumières et de la révolution. Donc nous avons fait une espèce de petit dossier. Donc il y a le professeur Bush qui montre la clé spirituelle, puisque vous le savez, les Carmélites de Compiègne ont donc fait pendant 20 mois un acte d'holocauste à Dieu, s'offrant, s'il le fallait, pour apaiser la terreur. C'est pour ça que ça s'appelle, pour apaiser la terreur et rendre la paix à l'Église et à la France. Puisque devant, je rappelle que devant Fouquier-Tinville, la prieure a dit, nous n'avons pas de préférence politique, mais nous avons été fondés par les rois de France et nous gardons notre vénération au roi et aux reines de France. Et donc nous avons cette explication, et puis par le professeur Brancourt, qui, à propos d'un livre qui est paru il n'y a pas longtemps, qui montre comment s'est mené au XVIIIe siècle le combat contre les encyclopédistes, parce qu'il y a eu un combat qui a été mené avec une certaine efficacité et qu'on peut reprendre et qui est riche d'enseignements. Également, eh bien, le François Brignot fait un petit article où il raconte comment s'est fait l'anti-89 en 1989, donc le 15 août, la préparation de ce 15 août 89, qui montre que pour le deuxième centenaire, ça n'a pas été non plus, les Saturnales n'ont pas été seuls à voir le jour avec le défilé Jean-Paul Goude, Jean-Paul Gaultier ou je ne sais pas quoi, mais aussi le rappel qu'il y a eu une contre-révolution et qu'elle est nécessaire. Et puis, donc, Norbert Nulto nous montre comment la révolution a été traitée et maltraitée dans le film et le cinéma. Donc ça, c'est le dernier numéro de Fidélitaire, et donc je vais peut-être donner les références.
Oui, s'il vous plaît. Hein.
Donc, le livre du professeur William Bush, Apaiser la terreur, la véritable histoire des Carmélites de Compiègne, donc édition Clovis, 109 francs, et puis le dernier numéro de la revue Fidélitaire, numéro 142 de juillet 2001, donc 49 francs le numéro, 215 francs l'abonnement découverte. Donc je donne les références où on peut soit le commander. Par correspondance, donc c'est Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes, Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes, donc le téléphone est le 01 69 78 30 23, 01 69 78 30 23, ou bien en librairie, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, dont le téléphone est le 01 43 25 36 67. Donc librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement.
Alors j'appelle les titres, le titre de ce livre s'appelle Apaiser la terreur de William Bush,
la véritable histoire des Carmélites de Compiègne.
Et puis le numéro de Fidélitaire qui est consacré au même sujet. Merci monsieur l'abbé, vous êtes un modèle de rigueur et de concision, je vous admire beaucoup.
Ben, merci beaucoup et bonne soirée.
Merci. Monsieur de Boune, si vous voulez prendre la place que monsieur l'abbé vous laisse et nous expliquer le plus rapidement possible et d'une façon aussi concise que lui ce que vous prévoyez de faire pour édifier les jeunes foules aux beautés du légitimisme.
Bien, bonsoir, je vais essayer de faire assez brève. Donc je suis venu vous présenter la 9e université d'été légitimiste qui aura lieu comme les années précédentes au château de l'Auberdière à Angers, du côté d'Angers, et chez monsieur et madame de Bellecour. Et donc cette université d'été aura pour thème cette année le roi face aux nouvelles féodalités et se déroulera du 25 juillet, le mercredi 25 juillet au soir, jusqu'au dimanche 29 juillet. Donc il y aura une dizaine d'intervenants, donc parmi lesquels on trouvera Yves-Marie Adeline, l'amiral Berger, Jean-Pierre Dutrieux, le directeur des éditions Godefroy de Bouillon, Richard Haddad, qui évoquera le Moyen-Orient et ses intérêts géopolitiques, mais aussi le Philippe Montillet, le professeur Néry, le professeur Pelletier, qui nous parlera, lui, de la barbarie aujourd'hui. Il y aura aussi Philippe Pichot-Bravard, et qui évoquera le roi face au mondialisme, Jonathan Ruiz-Chastenet, Nicolas Tandler, le célèbre écrivain d'investigation, qui évoquera l'islamisme en Europe, et le professeur Tournafond. Et sans oublier, bien sûr, Michel Salon, qui nous évoquera le danger de la concentration des grandes entreprises. Bien entendu, tous ces conférenciers dédicaceront leurs ouvrages à l'issue des différentes conférences. Le vendredi 27 juillet, on aura notre traditionnel après-midi découverte, qui aura pour cadre cette année l'abbaye royale de Fontevraud, où se tient une exposition tout à fait remarquable sur les objets d'art qui proviennent des différents pays où les princes d'Anjou ont régné. Donc, et c'est la première fois que ces objets.
Un livre magnifique qui vient de paraître sur.
Voilà.
Sur le trésor des Anjou.
Voilà. Et donc, toutes ces œuvres d'art, c'est la première fois qu'ils quittent leurs différents pays, que ce soit la Croatie, la Hongrie, l'Italie, la Pologne. Ça englobe aussi bien des sculptures, des peintures, des enluminures, des dessins. Bref, c'est une exposition tout à fait exceptionnelle qui montre que à une époque où on nous parle de l'Europe, eh bien la maison d'Anjou au Moyen-Âge y avait déjà pensé, mais c'était une Europe qui n'était pas tout à fait celle dans laquelle nous vivons actuellement, mais c'était plutôt une Europe des familles et des arts. Donc voilà, le samedi 28, on aura la visite d'André Galabru. Donc le célèbre chanteur viendra interpréter ses différents morceaux liés à...
C'est le cousin, il faut le dire, le cousin du comédien.
Voilà, le cousin ici de Germain, Michel Galabru. Et le dimanche 29 juillet, donc, ça sera la journée porte ouverte, qui commencera comme chaque dimanche par une messe à 10h30. Suivra un déjeuner et à 15h, Alexis Arrête viendra évoquer la fonction royale dans l'histoire. Donc maintenant, je vais parler des prix.
Des conditions, voilà.
Voilà.
Très important.
Voilà, qui sont tout à fait abordables. Donc ça commence à 650 francs dans un dortoir. Autrement, bon, pour un couple, ça c'est 2250 francs. Autrement, bon, il y a différentes formules. Donc 650 francs, c'est vraiment pas cher. Autrement, les gens peuvent venir, s'ils le souhaitent, que le dimanche. Et à ce moment-là, ça sera que 140 francs. Donc maintenant, je vais vous donner les coordonnées de monsieur et madame de Bellecour. Donc c'est monsieur et madame de Bellecour au château de l'Auberdière. Et vous pourrez les contacter au 02 41 82 72 03. Je répète, le 02 41 82 72 03.
Merci monsieur de Beaune. Je précise que cette université d'été, j'ai participé à la première université de légitimiste il y a, je sais pas, j'étais encore au berceau pratiquement.
94 ou 93,
oui, je crois. C'est bien ce que je dis. Et c'était tout à fait remarquable, et c'est En plus, le lieu, le château de Léberdière, est un lieu délicieux.
Voilà.
On a l'impression de faire un bond d'un siècle et demi en arrière. Je dis bien un siècle et demi parce que on imagine que c'était comme ça que ça se passait dans les campagnes, dans les, dans les grandes, les grandes demeures aristocratiques. Voilà. Et c'est vraiment une ambiance merveilleuse.
Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais tout l'hébergement des participants, tous les hébergeants, tous les invités sont hébergé au château.
Au château.
Voilà.
Merci beaucoup. Alors,
merci, c'est moi.
C'est toutes les informations sur cette université d'été, on peut les obtenir de nouveau en téléphonant. Soyez gentil de rappeler le numéro.
Donc, à monsieur et madame de Bellecour, au 02 41 82 72 03.
Voilà. Merci bien.
Merci.
Eh bien, maintenant, on se tourne vers... on parlait tout à l'heure d'une persécution religieuse. Vous, vous faites l'objet...
Il y a beaucoup de persécutions, pas seulement religieuses.
D'une véritable persécution politico-scientifique, frico-politico-scientifique,
voilà,
on pourrait dire.
Tout à fait.
Et vous êtes venu plusieurs fois à ce micro, on a expliqué un petit peu ce qui se passait. Et vous avez été victime récemment d'une décision de justice
qui fait un amalgame absolument
effrayant de violence. Moi, j'ai écrit dans le livre aujourd'hui que c'était un acte de terrorisme judiciaire, car il s'agit véritablement de terroriser les gens comme vous qui mènent un combat. Qui n'est pas,
elle m'a pratiquement oralement interdit de m'exprimer pendant 5 ans mise à l'épreuve.
Oui.
Enfin, comme vous voyez,
ça marche pas donc, apparemment. Enfin, vous n'avez pas la tête de quelqu'un qui cède aux injonctions.
Non, si je les estime justes, oui, mais
alors, en
là,
l'occurrence,
c'est des amalgames.
Vous ne commencez pas par vous taire, puisque vous venez de publier un livre qui était en préparation et que vous aviez... décidé par respect pour la justice, il faut le dire, dont vous aviez décidé de différer la publication
oui, pour ne pas au lendemain du procès. Interférer avec la décision de justice.
Et maintenant, vous publiez, ça s'appelle Mirko Beljanski ou la chronique d'une fatwa scientifique. Et c'est à la fois un récit circonstancié de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire des recherches que vous avez faite avec le professeur Beljanski, dont vous étiez à la fois l'épouse et
la collaboratrice,
de ce qui s'est passé par la suite, de la persécution policière et gendarmesque.
Tout à fait, c'est un témoignage de l'absence totale de respect de la science, l'absence totale de liberté pour un chercheur de chercher objectivement. Il y a des chasses gardées dans le domaine de la science. Alors on paie les chercheurs tout à fait correctement au CNRS pour faire un travail, et quand ce travail n'est pas exactement dans l'axe qui convient, eh bien on les persécute et on nous marginalise. Alors il y a une chose que je tiens tout de même à dire, contrairement à ce que nous sommes inculpés parce que je suis inculpé parce que les produits n'ont pas d'AMM, mais je tiens à dire que nous avons toujours essayé de rentrer dans la normalité, d'avoir les autorisations. Ouais. Simplement, les experts, les autoproclamés experts du gouvernement sont un pied dans l'industrie et soi-disant experts objectifs, et ils ne sont pas objectifs, et comme ces produits n'ont pas l'heure de plaire à l'industrie pharmaceutique, eh bien, il faut...
Ils ont même refusé d'examiner votre demande de mise sur le marché.
Ils n'ont pas refusé, mais ils ont toujours un alibi pour dire c'est impossible, ça peut... Il y a ceci qui ne va pas, et à la fin, finalement, quand on était tout près de l'avoir, ils ont envoyé la police saisir absolument tout. Donc je raconte cette montée de l'intolérance. Au fond, c'est un plaidoyer pour dénoncer l'intolérance intellectuelle.
Alors il y a d'autre part beaucoup de documents, vous publiez de nombreux facsimilés de documents fort intéressants et fort édifiants sur les correspondances que vous avez échangées avec l'Institut Pasteur, avec les différents services concernés par cette question, la Ligue française, la Ligue nationale contre le cancer, des universités, des articles de presse que vous republiez, que vous reproduisez. C'est un dossier extrêmement complet et qui se termine par une série de témoignages deux malades guéris par, la, par votre méthode.
J'aime pas le terme, enfin Mirko non plus n'aimait pas le terme guéri.
Guéri, ça veut pas dire grand chose, évidemment. Soigné en tout cas, traité avec succès.
Traité avec succès.
Voilà. Monsieur Lévesque, 69 ans, cancer généralisé des os. Monsieur Chaoui, cancer de la vessie et de la prostate.
Alors, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de doutes dans la population sur l'efficacité des produits. Voilà. Simplement, bon, le pouvoir judiciaire, puisqu'on n'a pas trouvé d'argument scientifique contre mon mari et contre son travail, eh bien, on a envoyé la police, on a envoyé le fisc et finalement, on a envoyé les gendarmes nous maltraiter, nous séquestrer, confisquer tous les documents.
Alors, j'indique, ça, c'est, moi, c'est vraiment ce qui m'a fait, quand j'ai appris ce qui vous était arrivé et que j'avais trouvé un véritable scandale, mais un scandale judiciaire, un scandale policier, un scandale gendarmesque, mais je ne connaissais pas du tout l'aspect scientifique, l'aspect médical des produits Majorski. Mais ce qui a enlevé mon adhésion et ce qui m'a amené à m'engager un petit peu, pas à vos côtés, mais enfin à vous donner la parole,
beaucoup aidé,
c'est le fait qu'à chaque fois vous publiez des témoignages et que ces témoignages, je le dis dans le livre encore une fois, sont publiés avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des gens. Ce qui montre quand même à quel point ces malades vous ont une reconnaissance infinie.
Non seulement ça, mais
je
pense que c'est très important pour un malade angoissé, quelqu'un qui est pris par ce problème-là,
de pouvoir parler
de malade à malade. Je pense que c'est un plus considérable.
Alors, et d'autre part, vous avez créé autour de vous, réuni autour de vous, un noyau dur, on peut dire, de bénévoles, dont j'ai rencontré quelques-uns. Je pense à Madame Benoliel, par exemple, qui est la responsable pour Paris, qui est chargée de...
Oui.
Et qui sont des gens d'un dévouement total,
tout à fait.
D'un désintéressement absolu. Et je crois qu'une des pires canailleries qu'on a...
du système.
Utilisé contre vous, c'était de lancer contre vous des accusations d'ordre financier. Et d'ailleurs, je précise qu'il faut le rappeler quand même, le CIRIS, dont le président est Gérard Wedlich, a fait l'objet d'innombrables contrôles fiscaux, on a essayé de vous coincer comme ça,
oui.
Et tous se sont heurtés à l'évidence absolue qu'il n'y avait aucune malversation.
Absolument.
Strictement aucune, puisque vous n'avez jamais eu le moindre rappel, jamais la moindre condamnation, jamais la moindre sanction, jamais la moindre amende. Tout ça, il faut le dire, pour répondre une fois pour toutes aux calomniateurs et aux voyous de presse, notamment, qui vous ont...
Vous avez tout à fait raison.
Maintenant, ce qui est admirable quand on lit ce livre, c'est qu'on retrouve le chemin qui a été parcouru par tous les grands innovateurs, par tous les grands découvreurs, et qui à chaque fois, comme ce sont des gens qui combattent, qui se heurtent à un système puissant, établi, en place, soutenu...
C'est un éternel recommencement.
C'est toujours la même chose. Et alors, on voit qu'à chaque fois, pour eux, le mot n'est pas trop fort, hein, c'est un véritable calvaire.
Oui.
Et l'illustration de couverture du livre avec ce personnage.
Alors,
qui
oui,
est,
c'est un, le peloton d'exécution, c'est l'assassinat de Maximilien.
De Maximilien, oui.
Tableau de Manet. Et puis, de l'autre côté, le personnage qui a les mains liées, c'est une sculpture yougoslave. C'est un petit rappel à l'origine yougoslave de Mirko. Mmh. Et c'est aussi un petit rappel aux menottes qu'on a passé à un chercheur de 72 ans ou 13 ans pour... parce qu'il se permettait de penser autrement que ce qui arrangeait le système.
Et alors, parmi les détails tout à fait significatifs de cette affaire, il y en a un qui me paraît particulièrement important, c'est que de vive voix, sinon dans le jugement, dans le texte du jugement, il est dit que tous les travaux, tous les carnets, toutes les notes,
Doivent être détruites.
Ça, c'est ce qu'elle a dit.
C'est ce qu'elle a dit, mais je ne l'ai pas retrouvé dans le texte écrit qui nous est parvenu au bout d'un mois.
Ça doit être confisqué, je crois que c'est indiqué.
C'est confisqué.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un homme et une femme qui ont travaillé, avec une équipe d'ailleurs, pendant combien de temps? 25 ans, 30 ans?
40 ans.
Ils ont produit ce que produisent les scientifiques quand ils travaillent pendant 40 ans, c'est-à-dire une somme énorme de dossiers, de travaux, de résumés de recherche, etc.
Et surtout qui ont pu déboucher sur des choses concrètes, faciles à contrôler, faciles à vérifier.
Tout ça va être est pour l'instant confisqué, et si on en croit ce qu'a dit oralement la présidente du tribunal, devra être détruit, ce qui s'appelle un crime d'auto-da-fé scientifique.
Tout à fait.
Il faut quand même ajouter une chose, c'est que si on veut détruire ces documents, c'est qu'ils gênent quelqu'un, autrement on les rendrait à leurs auteurs. Bon. Il faut ajouter que quand les gendarmes ont fait leur premier rapport, le responsable gendarmesque
a demandé que ce soit détruit.
Il faut absolument détruire tout de suite tous les documents. Donc dès le départ,
il y avait cette volonté.
La volonté de faire disparaître.
Je pense qu'elle s'est rendue compte un petit peu de l'énormité, parce qu'il y a eu un petit remous, je crois, dans la salle quand elle a dit ça, et je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il valait mieux ne pas écrire une chose pareille. En tout cas, je n'ai pas retrouvé dans le document écrit.
Si je peux intervenir une seconde.
Oui, Jean-Paul Le Perlier.
Oui, les documents qui devaient être décrits, que le gendarme a demandé que l'on détruise, c'était notamment les lettres de satisfaction des gens guéris. Ça veut dire qu'un tribunal demandait de détruire les preuves à décharge, ce qui est un véritable crime en matière de justice.
Oui, mais bien sûr. Mais enfin, maintenant, c'est la mode, puisque ça n'a rien à voir. Mais j'ai vu que la première chose qu'avait faite le procureur dans l'affaire, ou le président du tribunal, du tribunal vénal international de la haine contre Milosevic, ça a été de couper le micro de Milosevic pour l'empêcher de s'exprimer. Ouais, donc évidemment, comme ça, il n'y a pas trop de problèmes pour faire des procès, on est tranquille.
On sait d'où ça vient. Ça vient d'une certaine décision de justice qui s'est passée il y a quelques décennies, où un tribunal s'était constitué, et dans le règlement du tribunal, ils avaient marqué « Nous ne tenerons pas compte de tout le dossier de la défense
». Je peux dire que c'est à peu près ce qui s'est passé, parce que tous les malades qui ont défilé, qui ont exprimé leur satisfaction, les médecins qui ont dit que les produits marchaient, les pharmaciens, etc., aucun argument n'a été pris en ligne de compte. Donc,
J'ai même vu un journal qui avait osé déclarer. Je n'ai plus le titre du journal en tête, mais j'ai ça dans mes archives, qui avait osé donc déclarer qu'on voyait au procès des gens prétendant être guéris.
Alors, dans votre livre, on trouve vraiment un résumé, et d'une façon tout à fait lumineuse et brève en plus, sans logorer, ça se lit très facilement de toute cette affaire, et on a envie de vous demander, et maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous?
Alors maintenant, je suis donc interdit de parler pendant 5 ans, mise à l'épreuve, comme vous pouvez le constater. J'ai pas envie de continuer la polémique, parce que je trouve que ça n'a aucun sens, mais je veux continuer à témoigner, parce que c'est une chose que je sais être utile pour la société, et je trouve que absolument inadmissible qu'on me coupe le micro, en quelque sorte. Ça revient à ça, et j'ai l'intention de continuer à porter la bonne parole, c'est-à-dire ne pas faire de polémique, ne pas faire de publicité comme prétend l'accusation, c'est-à-dire que dès qu'on parle de science, elle considère que c'est de la publicité. Quand mon mari faisait des réunions scientifiques, le procureur a taxé ça de kermesse. Enfin, c'est fou.
C'est énorme quand même.
C'est énorme, absolument.
C'est énorme.
Donc c'est le garrot espagnol, comme on disait autrefois.
Comment expliquez-vous quand même, c'est fou cet acharnement, que des gens acceptent d'abdiquer toute dignité humaine.
C'est leur problème.
Tout respect de l'honneur, de la vérité.
Mon papa avait une réflexion, il disait ces gens-là connaissent l'honneur au pluriel mais pas au singulier.
Une fable de La Fontaine justement là-dessus qui est merveilleuse, c'est la fable du chien et du loup, où le loup nègre voit le chien gras, bien gras, et le loup il fait, t'as de la chance, toi t'es bien gras, et il voit la marque au cou, et le chien il fait, oui mais voilà, j'ai un collier, je peux pas aller où je veux moi. C'est tout à fait ça. Il y a des gens qui se vendront pour du fric,
oui,
ou des honneurs, ou des rubans, ou des cocardes.
Alors, qu'est-ce qui va se passer
d'ailleurs maintenant? Je me rappelle, Menot nous disait, puisque nous étions dans son service, tout le monde est achetable, il suffit d'y mettre le prix.
Oui.
Je l'ai entendu dire ça.
C'est moralement, c'est un prix Nobel.
N'oublions pas que nous vivons dans un régime où le symbole de notre régime est quand même une dame qui faisait commerce de ses charmes.
Ouais. Et je crois que malheureusement, c'est vrai que beaucoup de gens sont prêts à se vendre pour une bouchée de pain. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes et de leur propre valeur, ou ils sont trop conscients de leur valeur, puisqu'ils acceptent une bouchée de pain.
Ou peut-être qu'il y a personne pour acheter. Certains promettent du caviar sur le pain, quand même.
Ou peut-être que personne ne veut acheter. Il y a ça aussi.
Bon, alors ce livre, j'espère, met un point final à la polémique. J'ai fait appel du jugement, évidemment. Donc,
alors pour l'instant, il faut rappeler quand même aux auditeurs, quelle est la condamnation qui vous a été infligée?
Eh bien, j'ai 18 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende.
Et des dommages et intérêts à diverses officines.
Alors, la Ligue contre le cancer, alors ça c'est assez extraordinaire, parce que la Ligue contre le cancer, ACT UP et AIDE, qui sont, rappelons-le, très largement subventionnés par la Wellcome, c'est-à-dire Glaxo Wellcome, qui fait les produits, les trithérapies, et qui les subventionne, demandaient des indemnités. On se demande quelle indemnité à quel titre,
ouais.
Parce que est-ce que c'est parce que nos malades se portent bien, ou...
Oui, c'est probablement
bon,
ça.
Bon, c'est sans doute ça. Mais ils n'ont eu qu'un franc de dommages et intérêts. Mais par contre, nous sommes condamnés à payer solidairement, puisque nous sommes 14 inculpés, à payer les avocats et les frais de justice.
Les frais irrépétibles. Voilà. Ça représente quoi, ça, à peu près?
Je ne me rends pas compte. Ça a été dit, mais ça représente des sommes assez élevées, tout à fait.
Vous dites que vous allez continuer à témoigner. Ça veut dire quoi? Vous n'envisagez pas non plus de vous expatrier?
Non.
Vous êtes têtu chez Bejanski, quand
même. Je ne suis pas têtu, c'est un problème de dignité.
Un auditeur, justement.
On ne fuit pas devant les attaques. On fait face et puis si on vous... Pardon.
Je vous en prie. Un auditeur demande justement pourquoi ne pouvez-vous vous tourner directement vers les États-Unis? Vous pourriez obtenir une homologation là-bas?
Écoutez, maintenant, pour pouvoir payer sa caution, mon mari a vendu ses brevets. Nous n'avons plus de droit de regard sur ses produits, sur ses brevets. Et je pense que les personnes qui s'en occupent font le nécessaire, mais ils sont pas mal un petit peu dégoûtés de ce qui se passe en France. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors bon, ce livre, vous voulez que je donne où est-ce qu'on peut se le procurer?
Ben oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Et puis, je crois qu'on a... Alors,
je vais rappeler le titre, c'est Mirko Beljanski ou Chronique d'une fatwa scientifique. Alors il y a trois endroits où on peut se procurer ce livre, soit à Siris, boîte postale 9, Dolus de Léron, 17 550. Il y a la librairie Teki, 82 rue Bonaparte, à Paris, dans le 6e, et la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, à Paris, dans le 7e. Le prix est 140 francs franco de port. Voilà.
Bien. Eh bien, je crois que nous avons au téléphone un de vos amis. Allô?
Oui, bonjour.
Gérard Rédige, comment allez-vous?
Écoutez, je tiens le coup.
Mais vous tenez le coup, mais j'ai l'impression. Moi, depuis le procès, je vous ai eu plusieurs fois au téléphone. Et je dois dire que j'ai trouvé que votre punch n'était plus le même. J'ai l'impression que vous avez été vraiment très, très fortement touché par ce...
Qui ne le serait pas, Serge? Moi, je voudrais dire que j'ai été bouleversé par le prononcé du jugement du 23 mai dernier, et qu'aujourd'hui, je peux affirmer, en tant que simple citoyen, pour l'avoir vraiment vécu dans ma chair, que dans ce pays qui se prétend être celui des droits de l'homme, eh bien, il existe une justice de connivence, qui est une justice, dirons-nous, j'ai appris ça récemment, à trois vitesses. Parce qu'on connaissait déjà la justice à deux vitesses, qui était évoquée par Jean de La Fontaine. Vous savez, pour mémoire, selon que tu seras puissant ou misérable, la justice se fera innocent ou coupable. Mais en France, il faut maintenant rajouter... Et c'est pas moi qui le dis, c'est le mensuel Motus de juin dernier, une troisième vitesse à la justice, c'est-à-dire la justice pour laquelle les procès ne sont que des mises en scène, puisque sous des pressions diverses, la sentence serait déjà rendue, même avant que l'affaire ne soit jugée. Alors moi, j'ai J'ai décidé, après en avoir discuté avec le conseil d'administration du CIRIS et en accord avec Maître Autrive, de faire appel de ce jugement inique, parce qu'il n'y a rien, vraiment rien de normal et de juste là-dedans. Parce que je savais que la mafia pharmaceutique était puissante. Mais là, moi, je suis concerné. Je suis au premier rang des inculpés. Je dois constater qu'il y a effectivement des connivences telles qu'elles ont été décrites par l'avocat Maître Bernard Méry dans ses livres, ouais. Et en particulier dans son dernier qui s'intitule « Justice, franc-maçonnerie et corruption », qui est paru aux éditions Spot là dernièrement.
Et on l'a reçu à ce micro d'ailleurs.
Et Bernard Méry dit que la justice de notre pays n'est pas indépendante. C'est lui qui le dit, c'est pas Gérard Wedlich, même si moi je peux qu'approuver aujourd'hui cela. Ouais.
C'est pas seulement une justice à trois vitesses, c'est aussi une justice à trois points.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Mais... Et dans le midi de la France, en ce moment, on n'arrête pas d'évoquer des magistrats, évoquent tous ces problèmes, et c'est particulièrement inquiétant dans notre démocratie.
Mais en fait, dans un domaine de santé, il n'y a pas à entrer dans des lignes de compte de partis politiques, de franc-maçonnerie, pas franc-maçonnerie, appartenance à ceci, cela. Nous avons été complètement en dehors de tous ces réseaux, nous avons fait de la recherche, nous avons des produits qui marchent.
Mais Monique Gojanski, vous savez très bien que...
En quoi est-ce qu'on gêne...
Vous gênez des intérêts financiers considérables. Il est évident que...
Vous voyez, tous les jours, aujourd'hui, on constate que les bons sont considérés comme les méchants, que les valeurs actuelles sont inversées dans notre société, c'est tout ça. La justice, elle sait doser les sentences quand on s'appelle Trigano, Botton, Barrault, François Gros, l'Institut Pasteur, etc. Et puis faire bénéficier à des coupables de l'amnistie en infligeant des peines inférieures à 9 mois, et nous, ce n'est pas notre cas. Puisque dans le cadre du procès Beljanski, toutes les peines énoncées commencent à 12 mois de prison avec sursis.
Oui, mais ça, c'est pour qu'on ne puisse pas bénéficier de l'amnistie.
Absolument,
justement.
Absolument. Donc, moi, je peux vous garantir, Serge, qu'avec ces mesures, s'il n'y a pas de place dans les prisons pour les dealers, les violeurs, les bandits de toutes sortes, etc., ben, soyez certain qu'en cas de nécessité...
Il y aura une place pour Gérard.
Et si je persiste, on trouvera une place... Pour moi, pour Monique, afin de nous faire taire, et tout ça c'est scandaleux.
Alors,
c'est vraiment la preuve que le pouvoir de l'argent est roi.
Alors pour mesurer, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, je vais résumer votre cas, Gérard.
Moi je voudrais crier vraiment ma détresse sur vos ondes et dire ce qui me choque le plus dans ce scandale d'État, qui est le plus grand pour moi de tous les scandales de la santé publique.
Alors, je vais vous donner la parole. Attendez, Gérard, écoutez-moi. Je vais vous donner la parole tout de suite, mais je voudrais rappeler en très très brièvement...
Ce que je vous dis là.
Bon, alors allez-y,
faites-le. Personnellement, moi, en voulant sauver une vie humaine, dans le cadre de l'exercice de ma profession de maître nageur, puisque j'ai été contaminé au cours de l'été 85 par le sida, par une victime qui ne vomissait que du sang et qui m'a, avec sa barbe dure, ouvert les angles des lèvres, ce qui a fait un contact plé-plé sans sang, alors déjà ça, je vous signale qu'il ne faut pas le dire, pour ne pas créer de psychose. Même suite à mon accident, les embouts de protection pour la réanimation sont devenus obligatoires. Alors, de simple séropositif, j'ai développé en mars 86 un sida déclaré avec plusieurs maladies opportunistes. Et comme je suis père de famille de 4 enfants, il fallait trouver une solution pour me soigner. C'est ainsi que moi, j'ai choisi, au nom de ma liberté thérapeutique, les produits Beljanski. Et je suis... ainsi devenu le premier utilisateur du PAOV-FM, l'extrait de PAO-Pereira, qui a été mis au point par le chercheur Mirko Beljanski, et que donc satisfait ensuite des résultats, je m'aperçois que pour avoir sauvé ma vie en faisant un bon choix, je deviens un survivant illégal du sida, comme d'autres malades sont devenus, avec les produits Beljanski, des survivants illégaux du cancer et de maladies auto-immunes. Mais... Alors satisfait, reconnaissant envers le savant Beljanski et humain envers mes frères et sœurs d'infortune, les malades, j'en parle et je témoigne.
Mais c'est bien ça qu'on vous reproche, Gérard.
Voilà.
C'est pour ça que vous êtes inculpé.
Je respecte donc, mais juridiquement parlant, puisque Maître Autrive est là, je respecte donc scrupuleusement l'article 223.6 du Code pénal, en portant assistance aux personnes en péril devant les maladies mortelles, puisque les vraies statistiques du cancer et du sida sont déplorables, tout ça c'est bien connu. Alors on me condamne pour publicité, pour un médicament, sans AMM, alors que je fais de l'information, et pour tromperie. Donc, je me suis trompé moi-même en me soignant bien, Et c'est vrai que je devrais être mort, selon les spécialistes du sida, depuis fin 91, et que je suis toujours vivant, et ça c'est plutôt embarrassant pour certains qui, paradoxalement, devraient se réjouir de cette situation.
Mais Gérard, vous êtes coupable doublement d'être bien portant et d'ouvrir la bouche.
Ben oui, voilà. Alors en somme, c'est ça, c'est une nouveauté en France. Sauver sa vie et celle de ses compatriotes, c'est devenu en France un délit, sanctionné par des peines de prison et de lourdes amendes. Et moi, je m'interroge.
Mais je dirais que ça signe aussi qu'on n'a aucun argument scientifique. À se mettre sous la dent. Quand on envoie la police à un scientifique, quand on envoie le fisc pour le faire taire, quand on lui est interdit de s'exprimer, de voyager, de rencontrer ses collègues, c'est vraiment un aveu d'impuissance scientifique à démontrer qu'il a tort.
Alors personnellement, moi je finis par croire que cette lourde peine vient me sanctionner parce que 16 ans plus tard, je suis toujours en bonne santé, que cela doit être extrêmement suspect. Et en réfléchissant même sur toutes ces injustices qui sont flagrantes, je me suis posé la question si elles n'ont pas simplement pour objectif de faire développer dans mon organisme un stress oxydatif que tous les malades du sida connaissent, ou les malades du cancer aussi, chargé de réveiller ma maladie et d'en déclencher une nouvelle afin que je m'auto-détruise.
C'est ce qu'on a fait avec Mirko Beljanski et ça a marché.
Voilà. Alors ça devient intolérable et je dis qu'il faut dénoncer par tous les moyens toutes ces pratiques de confiscation, de destruction de documents, de cahiers scientifiques, de carnets de notes d'un chercheur, du savant, de détruire les témoignages des malades. Tout ça, il faut le dénoncer et moi je peux pas utiliser certaines, vous savez ça me rappelle l'Inquisition ou une période plus récente de notre histoire, mais c'est à vous Serge de développer ce que vous savez de ce qui s'est passé pendant l'année dernière, puisque moi, je peux plus, il faut que je me limite avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, il faut que j'apprenne à retenir ma langue, et moi j'avais fait citer une dizaine de témoins derrière moi pendant le procès, et tous les malades qui sont venus à la barre et qui ont confirmé les bons résultats ont dit que si c'était à refaire, ils recommenceraient. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant.
Merci Gérard.
Voilà, vous n'oubliez pas de nous dire, de nous rappeler les coordonnées associatives.
Absolument, j'en regarde de l'oublier.
Voilà.
À bientôt.
Je compte sur vous, je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Voilà. Je voudrais bien témoigner à mon tour, oui, légalement, si vous me permettez, puisque moi aussi, je suis, après avoir enquêté contre Beljanski, j'ai fini par comprendre que Beljanski soignait vraiment, et puis j'ai été touché à mon tour par un cancer. Oui, il y a un an, on m'a affirmé que j'allais mourir dans les 3 mois, oui. Et on m'a dit que ce seront 3 mois d'enfer. J'ai pris les produits Beljanski. Je viens de faire récemment des analyses très pointues avec les laboratoires Augusti. Ce sont des gens qui ne veulent pas faire de publicité d'ailleurs, donc je n'irai pas plus loin sur les adresses, hein, qui m'ont affirmé, vous n'avez strictement plus rien de cancéreux dans le sang, c'est absolument impossible. Mais même si vous développiez demain un stress énorme, votre réaction ne serait pas un cancer, vous ne risquez absolument plus rien dans ce domaine.
Alors moi je me souviens, bon Jean-Paul, on a travaillé ensemble pas longtemps, mais on s'est connus dans la presse et on a travaillé à Minute. Et je me souviens que Jean-Paul avait enquêté beaucoup sur l'affaire Beljanski, que je l'avais fait venir à ce micro comme journaliste témoin. Et il avait rapporté les résultats de son enquête, qu'il avait commencé d'une façon à la minute, c'est-à-dire en disant ces gens-là sont des escrocs, je vais le démontrer.
Et puis j'ai utilisé contre eux tout ce que l'on pouvait utiliser.
Et puis il a découvert que non, c'était pas ça. Et alors chose, je sais pas comment il faut dire, extraordinaire, providentiel ou malin coup du sort, je sais pas. Il y a un an, Jean-Paul me dit, écoute voilà, je viens d'apprendre que je suis foutu et je dois dire, bon, tant pis, hein, je dis ça devant toi, Jean-Paul, avec un courage qui, moi, m'a laissé littéralement stupéfait. Il m'a dit, voilà, je sors, là, voilà les résultats, j'en ai pour 3 mois. Et pendant 3 mois, ça va être un cauchemar et tout. Et je lui ai fait porter immédiatement, j'avais une boîte de produits Beljanski, je lui ai fait porter immédiatement en lui disant, écoute, prends ça, puisque toi-même, tu as dit que tu pensais que c'était sérieux. Et il l'a fait, et je m'attendais, je veux dire, vraiment, je m'attendais à une issue fatale rapide, parce que je savais que si Jean-Paul m'avait dit ça, c'était pas pour faire le malin. Et je me disais, il est sans doute bien tard pour...
Oui, tout le monde m'a dit qu'il était trop tard.
Attaquer. Et puis voilà, ouais, bah, il est là.
Oui. Alors, il faut dire quand même qu'avant de faire ça, j'avais quand même interrogé à peu près 3800 personnes rencontrées dans les manifestations, interrogées, enregistrées, qui étaient des gens dans des cas comme le mien. Des gens qui n'avaient aucune raison de survivre, qui se voyaient foutus, puis qui étaient quand même encore là grâce au produit Belgianski, que ce soit cancer ou que ce soit sida. Moyennant quoi, j'avais quand même de bonnes raisons de penser que ça pouvait marcher.
Voilà, moi je crois qu'on est en face du plus grand scandale scientifique de la deuxième moitié du XXe siècle.
Mais je crois que c'est important de porter tes témoignages. À la fois, c'est pas du tout de la publicité, c'est tout l'effort scientifique qu'on ne peut pas bafouer comme ça d'un revers de main.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, je rappelle le titre de votre livre. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma petite Victoria?
On voulait poser une question à monsieur, savoir si en même temps que les produits Belgianski, il avait suivi un traitement médical classique.
Je n'avais pas l'intention d'en suivre. On m'a proposé une chirurgie et on m'a dit que c'était extrêmement destructif et qu'il y avait de fort peu de chances. J'ai préféré ne pas le faire. C'est là qu'on me dit, dans ce cas-là, vous avez, quels que soient les autres traitements, vous avez 3 mois à vivre. J'en ai parlé avec Madame Belgianski qui m'a dit, écoutez, si vous prenez nos produits, il faut absolument faire une radiothérapie par la même occasion. Ça déstabilisera vos cellules qui seront plus accessibles aux produits et également les produits vous protégeront contre les résultats de la radiothérapie. J'ai vu le professeur qui m'a examiné s'étonner, me dire, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas de brûlure, que vous ne souffriez pas, etc. Et j'ai effectivement été protégé dans la mesure où le traitement était normal par les produits Belgianski. Malheureusement, il a surpris, il a voulu voir jusqu'où ça allait, je suppose. Il est allé beaucoup plus loin. J'ai quand même fini par avoir quelques brûlures et quelques inconvénients. Voilà. Je crois qu'effectivement, il n'est pas mauvais de mélanger les deux traitements. Il y a un effet de synergie certain. J'en ai bénéficié. Mais sans les produits Belgianski, tout le monde m'a dit que je n'avais aucune chance de vivre plus de 3 mois qui devaient être 3 mois d'enfer.
Vous auriez, c'est ça. Voilà.
Mais il faut comme toujours rester très vigilant.
J'ai bien l'intention. D'ailleurs, oui. Je continue à prendre des produits pour me protéger. Comme beaucoup de gens qui ont pris des produits Belgianski, qui de temps en temps font une cure de protection.
Peut-on toujours trouver vos produits ?
Oui, il y a beaucoup de produits qui se réclament des produits Belgianski, mais qui ne sont pas les produits Belgianski. Mais les produits Belgianski authentiques, on les trouve à New York. Effectivement.
Et la filière est très très facile. Enfin, la filière, c'est pas.
Faut s'adresser à Cyrus.
Alors voilà, le meilleur moyen, c'est de.
Moi, je fais pas de publicité pour les produits.
Nous,
hein,
c'est nous, alors.
Le meilleur moyen, c'est d'écrire au Cyrus. C'est boîte postale 9 maintenant.
Dolus-de-Léron,
17 550.
Tout à fait.
Et si vous préférez. Vous pouvez, je sais que ma femme va m'enguirlander encore parce que elle m'a dit, mais tu te rends compte, à chaque fois je suis accablé d'appels, j'arrive pas à faire face. Mais bon, là il s'agit de quelque chose de, si vous pensez qu'il y a une urgence pour vous à entrer en contact avec les laboratoires, les fabricants des produits Belgianski aux États-Unis, vous téléphonez au Libre Journal, je vous donnerai le numéro de téléphone.
Mais il y a un site internet où je pense que.
Le site internet de ces.
Tout à fait.
On peut commander par internet, c'est très très simple, c'est absolument
on trouve Natural Source sur Internet, oui.
Voilà, absolument.
Ce qu'il faudrait préciser, c'est que le Cyrus n'est pas du tout une association à but commercial.
Non, pas du tout.
Ce sont des malades comme moi-même. Et comment, quand on est un malade et qu'on s'en est sorti, qu'on rencontre d'autres malades, comment ne pas avoir envie de leur faire profiter de la chance qu'on a eue? Ce sont simplement des bénévoles et qui veulent apporter la même chance qu'ils ont eue aux autres.
J'ai un message d'auditeur, un seul. La définition de porter sa croix, c'est être persécuté pour le bien qu'on fait par ceux à qui on a fait ce bien. Madame Belgianski porte sa croix et avec beaucoup de classe et de courage.
Ça, je dois dire, c'est tout à fait
merci.
Merci à cet auditeur. Merci Monique Belgianski,
merci à vous.
Jean-Paul Leperlier et merci à Gérard Védlige.